17h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier 18-20 de la semaine. Au menu de ce dimanche, 2 heures d'information, 2 grands journaux et aussi du sport, les médias avec Michel Field, directeur de la culture sur France Télévisions. On va également parler de la visite du président chinois en Europe et notamment à Nice ce soir, Paris demain, après un détour par Monaco. Oui, Monaco. Qu'est-ce qu'il cherche ici et là? Investir ou tout racheter? Et faut-il craindre l'expansionnisme chinois et les nouvelles routes de la soie? Les Italiens ont déjà signé. On aura la réponse avec une chercheuse de l'IFRI. Le rugby français est dans la tourmente. La France a fini seulement 4e du tournoi Destination alors que la Coupe du Monde se profile. Le président Laporte est fragilisé par les affaires. Le jeu est de plus en plus dur au point que les règles vont changer chez les amateurs. Après 3 morts sur les terrains l'an passé, on fait le point avec Mathieu Blin. C'est l'ancien entraîneur et manager d'Agen. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, pour réagir à l'actu, vous pouvez publier un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. 18h, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Le journal, Fabienne Lemoyle, Philippe Andel.
Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous. Allons, vous dites. Au sommaire de votre journal ce soir.
Le début de la visite d'État du président chinois en France, vous en parliez. Première rencontre avec Emmanuel Macron dans moins d'une heure maintenant. Un dîner privé sur la Côte d'Azur à Beaulieu-sur-Mer avant un dîner d'État demain soir à l'Élysée. La plainte de la famille d'une manifestante blessée à la tête hier à Nice après une chute au moment de l'intervention des forces de l'ordre lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Theresa May en réunion en ce moment avec ses principaux ministres et des membres du Parti conservateur, alors que la première ministre britannique apparaît de plus en plus fragilisée. Et puis ça y est, c'est la saison des campings qui est lancée. Nous irons à Martigues dans les Bouches-du-Rhône.
Europe 1.
Il n'est pas en camping, le président chinois en visite d'État en France pour 3 jours.
Et il a atterri à Nice à la mi-journée, après une étape à Monaco cet après-midi. Première rencontre ce soir avec Emmanuel Macron. Ce sera dans moins d'une heure à Beaulieu-sur-Mer pour un dîner privé, Frédéric Michel.
Effectivement, Fabienne, un dîner dans un cadre féerique, la Villa Kérylos, une villa construite au début du siècle dernier, un palais bâti sur le modèle d'une demeure de la Grèce antique et qui surplombe la Méditerranée. Nous sommes entre Monaco et Nice. Monaco, où le couple présidentiel chinois a débuté en milieu de journée sa visite, rencontre avec le couple princier Albert II et Charlène de Monaco. Et donc, dans moins d'une heure maintenant, Xi Jinping sera accueilli par Emmanuel Macron et son épouse qui viennent d'atterrir à Nice. Nice en état de siège, puisque ce soir, le président chinois dort au Negresco, sur la promenade des Anglais, une promenade entièrement fermée à la circulation, même les piétons ne peuvent pas accéder au célèbre hôtel. Un déplacement millimétré jusqu'au choix de la literie, puisque le président chinois est venu avec son lit. 2 étages lui ont été réservés, des mesures de sécurité draconiennes ont été prises. Il est interdit de survoler le département, les arrêts dans les gares entre Nice et Monaco sont également interdits, plusieurs ports sont aussi fermés. Cette invitation pour une visite officielle de 3 jours avait été adressée au président chinois lors du déplacement d'Emmanuel Macron en Chine en janvier 2018. Une rencontre pour renforcer le partenariat stratégique qui lie les deux pays.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Et demain, le président chinois sera à Paris pour un dîner d'État à l'Élysée avec près de 200 invités. On y trouvera Alain Delon, Jean-Pierre Raffarin ou encore Laurent Fabius. Autre temps fort mardi de cette visite à Paris, la rencontre avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, à l'invitation d'Emmanuel Macron pour parler de la position de l'Europe par rapport au projet chinois des routes de la soie sur les investissements économiques chinois.
Samedi, nettement plus calme pour la 19e journée d'action des Gilets jaunes.
À Nice, un rassemblement a toutefois été marqué par des incidents. Une manifestante de 73 ans a été blessée à la tête en tombant lors d'une charge des forces de l'ordre pour évacuer une manifestation dans un périmètre interdit. Et on a appris ce matin, Chloé Triomphe, que la famille de cette manifestante avait décidé de porter plainte.
Oui, c'est pendant la charge policière sur un périmètre interdit à tout rassemblement que cette militante bien connue à Nice, une habituée de toutes les manifestations, a été bousculée et est tombée en heurtant un plot en métal sur le sol. Prise en charge sur place, elle a été transportée à l'hôpital où elle se trouve toujours aujourd'hui, comme l'explique l'avocat de sa famille, Maître Arié Halimi.
Madame Geneviève Leguay est dans une situation stable. Elle n'est pas dans le coma. Elle a néanmoins de très graves blessures, fracture du crâne, hématome sous dureau. Donner des instructions de charger des personnes âgées pacifiste, qui ne présente pas un danger et, à mon sens, d'une gravité extrême. Je suis également effaré que l'on se félicite de la réussite du maintien de l'ordre. Non, on ne peut pas se féliciter quand on a une personne de 73 ans qui se fait écraser par des forces de l'ordre. On peut, à la rigueur, donner une contravention, mais écraser et charger une personne de 73 ans au risque de la tuer, ça n'est pas ça le droit.
Le parquet de Nice a ouvert une enquête et mandaté dès hier soir un médecin légiste pour constater ses blessures. Le procureur a également ordonné la saisie des vidéosurveillances de la ville.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
La question d'une possible augmentation de l'âge du départ à la retraite avec la réforme à venir a fait débat la semaine dernière.
Débat a priori tranché par le haut commissaire chargé de cette réforme qui a dit vendredi qu'on resterait bien à 62 ans. En revanche, ce matin, dans le journal du dimanche, Jean-Paul Delevoye lance une nouvelle piste pour permettre aux retraités qui continuent à travailler d'augmenter leur pension, Maud Descamps.
Eh bien oui, l'idée de Jean-Paul Delevoye, c'est tout simplement de permettre de gagner des points supplémentaires pour les retraités qui continuent à travailler. Aujourd'hui, les retraités qui ont une activité perçoivent bien entendu un salaire, mais ne cumulent pas de points en plus. Avec ce système, le haut commissaire à la réforme des retraites voit une manière d'augmenter les pensions. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité du côté des partenaires sociaux. Pour Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, c'est prendre le risque d'encourager les retraités à continuer à travailler bien au-delà de l'âge légal du départ à la retraite.
Lorsque un retraité continue de travailler, il améliore déjà son revenu. Il ne faudrait pas qu'il aille travailler pendant 10 ans. Moi, je pense aussi qu'il faut laisser la place aux jeunes qui cognent à la porte de l'entreprise plusieurs années après leurs études. Moi, j'aimerais bien que l'on puisse calculer combien ça risque de coûter au régime, qu'il soit général ou complémentaire. Ça, ce n'est pas du tout dans la perspective de ce qui avait été discuté. Donc, je suis un peu surprise de voir ça aujourd'hui.
Et c'est maintenant que vont commencer ces discussions entre Jean-Paul Delevoye et les partenaires sociaux, notamment pour déterminer dans quelles conditions ce cumul pourrait être mis en place.
Des discussions qui doivent durer jusqu'au mois de mai. Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
À suivre, la réunion qui intrigue en ce moment en Grande-Bretagne, au lendemain de la manifestation monstre à Londres pour réclamer un nouveau vote sur le Brexit, Theresa May, la Première ministre, réunit ses principaux ministres en ce moment dans sa résidence secondaire.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h07, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Philippe Vandel.
Theresa May serait-elle sur le départ?
En tout cas, la première ministre britannique paraît bien fragilisée au lendemain de la manifestation monstre dans les rues de Londres hier. Près d'un million de personnes venues réclamer un nouveau vote sur le Brexit. Et puis, il y a l'impression qu'elle a donné de se faire dicter la règle à tenir sur le Brexit par les Européens lors du sommet de Bruxelles cette semaine. Et puis en ce moment, cette réunion avec ses principaux ministres qui n'étaient pas à l'ordre du jour, dans sa résidence secondaire, une réunion qui intrigue Anaïs Cordoba et qui forcément relance les rumeurs.
Peu d'informations ont filtré pour l'instant sur l'objet de cette réunion, mais elle n'était pas prévue et se déroule dans un climat de guerre ouverte au sommet du pouvoir. En ce moment même, Theresa May fait face à Boris Johnson, son principal rival et chef de file des Brexiteers, ainsi qu'aux principales figures du Parti conservateur. Cherche-t-elle à s'assurer de leur soutien sur la stratégie à tenir ces prochains jours pour sauver sa peau ? Les rumeurs de complot pour la renverser font la une des quotidiens aujourd'hui. Le Sunday Times affirme qu'au moins 11 ministres veulent la forcer au départ. Selon eux, Theresa May est devenue une figure toxique au jugement détraqué. Leur plan, la menacer d'une démission collective pour la contraindre à partir et désigner à sa place un membre du cabinet pour assurer l'intérim jusqu'à de nouvelles élections générales. Deux noms circulent actuellement, celui de David Lidington, le vice-premier ministre, ainsi que Michael Gove, ministre de l'Environnement et eurosceptique modéré. Pour l'instant, tous deux démentent ces informations et ont assuré leur soutien à Theresa May.
Anaïs Cordoba, correspondante à Londres pour Europe 1. Le navire de croisière victime d'une avarie en mer de Norvège, d'une avarie moteur, est arrivé à bon port cet après-midi. Ce sont près de 460 passagers qui auront finalement été électroyés, soit près d'un tiers des occupants du navire. Lors des évacuations, les vagues pouvaient atteindre 15 mètres.
Le printemps est bien là, ce week-end, avec du beau temps sur la plupart des régions.
Et du coup, c'est le bon moment pour lancer la saison du camping, comme à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, où s'est rendue Nathalie Chauvin.
Après 5 mois de sommeil sous les pins, le camping du Mas se réveille. Iñaki, le technicien, multiplie les interventions.
On est toujours à la bourre, on est toujours dans le jus. La piscine, les bungalows, les restaurants, l'électricité, tout.
Faut tout revoir.
Tout, exactement.
Avec une priorité, la remise en eau de la piscine.
On l'a toute nettoyée, passe le karcher, on l'a vidée. Et là, dans 5 jours, elle va être pleine.
Et l'eau sera à combien ?
22-23. Très très bleue. Elle sera magnifique.
Aussi belle que la mer, en contrebas, Florian est l'un des tout premiers vacanciers à profiter de ce début de saison avec près de 25 degrés à prix cassé.
Alors je viens toujours à la même période, avant la saison. Les activités, c'est sport, plage et profiter du beau temps. On est fin mars en plus.
Et dans les allées, Rosie, la propriétaire, se déplace en voiture de golf pour vérifier que tout est en place.
Une semaine mouvementée, bien sûr. Dernier mobil-home à nettoyer, le ratissage. Il y a beaucoup de préparatifs afin d'ouvrir les conditions optimales, afin de satisfaire la clientèle qui vient en avant-saison.
Avec cette année un gros investissement, 25 mobil-homes tout neufs, dernier cri, tout en bois.
Tout le confort d'une maison dans un espace restreint, c'est formidable. Le camping se porte bien. Et on est passé à des séjours peut-être plus courts, mais dans des structures plus luxueuses, entre guillemets.
Il ne manque plus que le chant des cigales et le premier rush des touristes prévu pour les vacances de Pâques. Martigues, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et c'était le journal de Fabienne Lemoal. Merci beaucoup Fabienne.
Europe 1, 18h11.
La météo, on reconnaît la petite musique doucereuse. C'est avec vous Valérie Darmon. Va-t-on conserver le beau temps d'aujourd'hui, de ce week-end, demain ?
Surtout en fin de semaine, Philippe, parce que le soleil va rester généreux de toute façon toute la semaine dans le sud-est, avec du mistral et de la tramontagne, qui va souffler jusqu'à 80 km/h en rafale. Ailleurs, le ciel va hésiter entre nuages et éclaircies pour demain. Entre les frontières nord et les Alpes du Nord, sur les régions frontalières, il pourrait même pleuvoir demain matin un petit peu, hein, et neiger au-dessus de 800 à 1000 mètres des Vosges aux Alpes, et ce temps instable qui va gagner les Alpes du Sud et la Corse en soirée, avec un petit peu de neige au-dessus de 1200 mètres. Donc là, lundi, mardi sont des journées un petit peu mitigées. Hein. Demain matin, les températures vont osciller entre 1 et 7 degrés en général, jusqu'à 13 près de la Méditerranée. Et l'après-midi, il fera 10 à 17 du nord au sud et jusqu'à 21 dans le sud-est.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Avec vous Christophe Lamar, le journal des sports, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer par du football. L'équipe de France met le cap sur l'Islande qu'elle va accueillir demain soir.
À 20h45 au Stade de France, l'idée reste la même. Gagner la manière importe relativement peu à Didier Deschamps. Seul compte la qualification directe pour le championnat d'Europe l'année prochaine. Quant à l'Islande, arrêtons de nous faire peur avec le quart de finaliste de l'Euro 2016. C'est ce que pense notre consultant football. C'est bien ça Alain Roche?
Oui, elle est arrivée en France à l'Euro 2016 avec beaucoup de fraîcheur. Elle a créé l'exploit. Elle avait battu l'Angleterre. On l'avait découvert à un public exceptionnel qui avait mis énormément d'ambiance dans les stades. Mais c'est vrai, depuis cette époque, ses résultats sont moins bons. On l'a vu lors de la Ligue des Nations où elle a terminé dernière de son groupe. Mais attention, toujours être vigilant lors de ce genre de match. Mais elle doit le faire. Et elle sera bien sûr critiquée si c'est autre qu'une victoire.
L'un des consultants football d'Europe 1, Alain Roche, la France qui enregistre un deuxième forfait après celui de Lucas Digne. Kingsley Coman doit renoncer en raison de douleurs lombaires. Lui non plus ne sera pas remplacé.
Le football toujours, mais côté club, la ministre des Sports refuse de trancher dans le conflit qui oppose le joueur Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain.
Oui, il a été mis à l'écart et ne s'entraîne plus avec l'équipe première. À l'origine du conflit entre les deux parties, le refus d'Adrien Rabiot de prolonger son contrat. Sa mère, qui est aussi son agent, dit ne pas comprendre que les ministres des Sports et du travail ne se saisissent pas du problème. Ce n'est pas notre rôle, explique Roxana Maraciné à nous. La ministre des Sports accorde un entretien exceptionnel d'une heure et demie à Lionel Rousseau ce soir sur Europe 1 Extrait.
C'est pas parce qu'on est ministre des Sports qu'on peut intervenir dans le sport professionnel ou sur des cas bien particuliers. Voilà, c'est des choses à régler entre le club et cette personne et cette famille, plus largement avec la Ligue de football.
Elle estime que c'est une injustice et que dans ce cadre-là, vous auriez pu peut-être au moins communiquer.
Elle l'estime, elle a le droit de l'estimer.
Oui, pas vous en tout cas.
Ah bah voilà, au moins c'est clair. Roxana Maraciné à nous, la ministre des Sports, extrait d'une longue interview d'1h30 diffusée ce soir sur Europe 1 dans l'émission Face aux auditeurs à partir de 20h. Et puis un mot de rugby pour vous dire qu'en ce moment, 20e journée du top 14, le Racing 92 mène face à Bordeaux-Bègles 28 à 20.
Et puis justement à ce propos-là, dans quelques minutes, on parlera également du rugby français dans la tourmente, selon et avec Mathieu Blin. Christophe, le reste de l'actualité sportive en bref.
La fin de saison en biathlon et le 16e succès de Johannes Bø. Le Norvégien remporte la masse start d'Oslo, le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est lui, mais Johannes Bø s'offre un autre plaisir de gourmet, le grand chelem, à savoir les quatre petits globes de cristal individuel, sprint, poursuite et masse start. Chapeau ouais. L'artiste et le cyclisme enfin avec la victoire du Néerlandais Mathieu Van Der Poel au Grand Prix de Denain devant le Français Marc Sarraut et le Belge Timothée Dupont.
C'était le journal des sports de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe, à tout à l'heure.
Europe 1.
La visite du géant sur les petits, le président chinois Xi Jinping est en France depuis cet après-midi avec la volonté de rayonner au-delà de l'Asie avec les nouvelles routes de la soie. L'Europe et la France ont-elles encore leur mot à dire ? Alice Ekman, spécialiste de la Chine à l'Institut français des relations internationales, est avec nous dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
On retrouve Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h16 et on va parler géopolitique, Philippe.
Le président chinois Xi Jinping est en Europe pour une mini-tournée. Il est à Nice actuellement, dans une ville en état de siège. Il va dîner ce soir avec le couple Macron avant d'entamer demain à Paris le caractère officiel de sa visite, avec notamment mardi une rencontre inédite en compagnie d'Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker, le numéro 1 européen. Bonsoir Alice Ekman.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse spécialiste de la Chine, notamment à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Est-ce que cette visite du président chinois fait partie des traditionnelles rencontres entre chefs d'État ou est-ce qu'elle a un caractère particulier et si oui, lequel ?
Elle a un caractère particulier parce que tout d'abord, elle est longuement attendue. Emmanuel Macron s'était rendu en Chine en janvier 2018, si vous vous souvenez bien, donc c'était il y a pas mal de temps. Xi Jinping était attendu depuis longtemps, enfin il est là. Elle a un caractère aussi particulier parce qu'elle a lieu dans le contexte des tensions renforcées entre les États-Unis et la Chine. Et dans ce contexte-là, la Chine a lancé une opération séduction vis-à-vis de l'Europe. Il est allé en Italie jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé. Il a signé un accord cadre sur les nouvelles routes de la soie notamment. Maintenant, il est en France, avec une France qui a une approche bien différente de la Chine que son voisin italien. Et aussi, un moment, c'est pour ça que cette visite est particulière aussi, un moment où en Europe émerge une coordination sur l'approche à adopter vis-à-vis de la Chine, puisqu'il y a une inquiétude au niveau européen sur les investissements chinois dans les secteurs stratégiques, et puis de manière générale, sur l'accès au marché chinois.
Alors justement, vous en parliez, cette nouvelle route de la soie, ces nouvelles routes de la soie, concrètement, de quoi s'agit-il ? Que veulent les Chinois ? Que font-ils ?
Alors c'est un défi à résumer en quelques minutes, dans termes clairs pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'au départ, c'est un projet sur les infrastructures qui est concentré.
C'est vraiment des routes au sens propre ?
Au départ, ouais. En 2013. Routes, autoroutes, ports, aéroports, voies ferrées. Mais on observe depuis le lancement, et donc on a 6 ans de recul, que ce n'est pas que ça. C'est aussi des câbles sous-marins, des data centers, c'est aussi la coopération douanière, culturelle, satellitaire, coopération juridique aussi en termes de normes et standards. Donc finalement, les nouvelles routes de la soie, pour faire simple, c'était une étiquette un peu fourre-tout, une étiquette officielle. C'est en partie une opération de communication, mais ce n'est pas que ça, parce qu'il y a en effet des ports, des aéroports, des routes, etc. Oui. qui se construisent. Mais c'est aussi une façon pour la Chine d'internationaliser ses priorités nationales. Pour vous donner un exemple, pour l'économie chinoise, le secteur du tourisme est central, très important pour son développement, et du coup, le secteur touristique devient un secteur central des nouvelles routes de la soie et devient au programme des nouvelles routes de la soie. Vous voyez, en fait, tous les secteurs et tous les pays peuvent
le tourisme
concerner.
Ou le tourisme en Italie pour les Chinois ou le tourisme en Chine pour les Italiens ?
Alors, souvent, c'est les flux touristiques chinois déployés en pays tiers, donc en Italie, en France, etc. Mais de manière générale, c'est à double sens et c'est un secteur qui est important pour la Chine, compte tenu aussi du marché qu'il représente et aussi du levier économique et géostratégique que cela peut comporter. Mais au-delà des aspects techniques, je voudrais aussi souligner que les nouvelles routes de la soie, ça ne concerne pas uniquement l'Eurasie. En fait, on s'éloigne du tracé historique des nouvelles routes de la soie. Xi Jinping a indiqué que ça passe également maintenant aujourd'hui par l'Afrique, par l'Amérique latine, par l'Arctique. En fait, tout le monde est bienvenu dans ces nouvelles routes de la soie. Soit c'est la communication officielle chinoise. Et ça me fait dire que les nouvelles routes de la soie, c'est une nouvelle proposition de mondialisation, une nouvelle forme de mondialisation selon les intérêts de la Chine et de ses priorités nationales.
Alors pour l'instant, parmi les pays du G7, seule l'Italie a annoncé qu'elle participait à ce projet. Mais participer concrètement, ça veut dire quoi ? Que financent les Chinois ? Le port de Gênes, par exemple, et j'ai vu qu'ils allaient rénover des voies ferrées en Italie. Quel rapport et dans quel but ?
Bon, alors, ce qu'ils ont signé, c'est un accord cadre, ouais. Non contraignant. Donc c'est un accord de principe sur le fait que l'Italie accueille favorablement ce projet chinois. Et c'est important à souligner parce que c'est en effet le premier pays du G7 qui a signé ce type d'accord. Et ces accords cadres sont tellement flous que d'autres pays, dont la France, dont l'Allemagne, rechignent à le signer parce qu'ils disent « mais sur quoi concrètement nous nous mettons d'accord ?» Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'investissements promis par la Chine dans le cadre de cet accord, mais rien n'a été signé concrètement sous l'étiquette des nouvelles routes de la soie. Mais l'adhésion de l'Italie à ce projet est importante parce que certains pays de l'Union européenne ont signé clairement et donc ont apporté leur soutien, d'autres non. Et donc c'est toujours la question de la division de l'Europe vis-à-vis de la Chine qui se repose. Mais cette division est à nuancer aujourd'hui parce que, comme je le disais au début, et comme on va le voir mardi Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron, essayons de faire front uni, si on peut dire, face à Xi Jinping pour mieux défendre d'une seule voix les intérêts européens.
J'allais justement vous en parler. Que vont-ils lui dire? C'est une rencontre inédite. Ils vont le mettre devant quoi? Ils vont dire, on est comme ça, on est une coalition. Qu'est-ce qu'ils attendent du président chinois et qu'est-ce qu'ils attendent en lui parlant ensemble?
D'abord, je pense qu'ils attendent de montrer un positionnement politique fort. Non, nous ne sommes pas désunis. Nous savons nous réunir au bon moment pour porter nos intérêts d'une seule voix avant le sommet UE-Chine qui aura lieu le 9 avril. Donc c'est un calendrier particulier. On revient à votre première question. C'est un timing très important. Voilà, les tensions sino-américaines, le sommet UE-Chine qui se rapproche. Et puis après cela, mi-avril, il y aura le sommet qu'on appelle 16+1 qui réunit la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale et qui avait été perçu avec beaucoup de scepticisme par Bruxelles parce que certains pays sont membres de l'Union européenne, certains pays ne sont pas membres. Donc la Chine réunit une diversité de pays sur le territoire européen et l'Union européenne aujourd'hui considère qu'il faut avoir une approche plus groupée.
Mais c'est une approche, sont des enjeux politiques ou est-ce qu'il y aura des choses concrètes? Est-ce que par exemple, quelque chose qui m'a frappé, c'est la visite en Europe de Xi Jinping qui fait un détour par Monaco où le président chinois a rencontré le prince Albert. On se dit mais qu'est-ce que une puissance de plus d'un milliard d'habitants fait en commun avec une principauté, ça vous fait sourire, de 38 000 résidents, qui n'a jamais accueilli de dirigeants d'un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU. En vrai, qu'est-ce qu'il fait là?
Alors c'est intéressant de noter que la diplomatie chinoise a une approche assez comptable. Finalement, chaque pays compte, chaque ville compte.
Son temps est compté également. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de 38 000 personnes?
Son temps est compté, mais en même temps, c'est entre l'Italie et la France. Bon. Donc, c'est voilà.
Non, mais
c'est
concrètement, il est venu installer le téléphone,
Il est venu, soutenir, on pourrait dire, les intérêts technologiques chinois. En tout cas, c'est l'impression qui ressort de cette visite.
Vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que la Chine est pionnière dans la future 5G, la nouvelle norme de téléphonie. Les Américains ne veulent pas des Chinois car ils ont peur que cette technologie très avancée soit ensuite un cheval de Troie si on achète des réseaux chinois. Donc l'Europe n'en veut pas, ou pas tellement, les États-Unis n'en veulent pas du matériel chinois, sauf qu'il y aura du matos chinois à Monaco.
Ben c'est ça, c'est jouer sur les exceptions. Comme il n'y a pas de consensus sur l'approche vis-à-vis de la 5G, vous avez tout à fait raison, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. On est en plein débat sur les risques en termes de sécurité et puis les enjeux économiques liés à la présence de tels réseaux et à qui les confier, à quelles entreprises, etc. Et dans ce contexte-là, Xi Jinping souhaite souligner un exemple qui dérange un peu le débat actuel à Bruxelles.
Et quand on voit tous les milliardaires de tous les pays qui sont à Monaco, s'ils arrivent à espionner les mais je dis pas ça sur le ton de l'humour, c'est appréciable.
Ah, je ne connais pas Monaco, je suis jamais allée à Monaco moi-même.
C'est vrai.
Mais en tout cas,
je peux vous dire qu'il y a très très peu de gilets jaunes à Monaco. Oui. Il y a également la question des droits de l'homme. Est-ce que ce thème va être abordé ou est-ce que ce sera à la marge suivant l'éternel principe de la realpolitik?
La question des droits de l'homme plane toujours sur les rencontres bilatérales Chine-France, notamment depuis Xi Jinping.
Je sais que la question plane. Ouais. Est-ce qu'elle va être posée?
Elle sera probablement posée. Après, la question, c'est selon quelle méthode? Publiquement ou à huis clos? Jusqu'à présent, la France a prôné une approche plutôt discrète, ce qui ne veut pas dire de ne pas en parler, mais... l'impression que l'on a aujourd'hui, en écoutant aussi des déclarations récentes d'Emmanuel Macron à Bruxelles, c'est qu'il est important de dire les choses, précisément, quand il y a un problème. Et je pense que son attachement aussi à l'art, à la culture, au journalisme, à la liberté intellectuelle est sincère. Et à mon avis, certains sujets, moi-même je ne suis pas dans les petits papiers, mais ce sujet-là sera évoqué. Oui.
Demain, Reporters sans frontières va rendre un rapport sur la liberté de la presse en Chine. On se demande même si le terme de liberté n'est pas trop. Elle n'est pas très bien classée, la Chine. En termes de liberté de la presse, le pays est classé 176e sur 180.
Clairement, quand on regarde les faits, le contrôle de la presse est renforcé depuis 5 ans. Ouais. Un journaliste en France n'exerce pas du tout le même métier qu'un journaliste en Chine. L'écart s'est accru. Xi Jinping s'est rendu au siège de la télé nationale pour expliquer que CCTV, donc les chaînes, devaient soutenir pleinement le parti communiste chinois, bien sûr. Et de plus en plus, on entend les mêmes éléments de langage dans la presse nationale. Donc, existent également des réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont fortement contrôlés.
Ce qui frappe, vu d'ici, vu d'Occident, c'est que ce qu'on appelle l'ouverture de la Chine, ça ne s'ouvre pas totalement à l'intérieur même du pays.
Mais il y a clairement un avant et un après Xi Jinping, hein, clairement. Xi Jinping a surpris beaucoup, même au sein du parti, par sa dureté, par sa détermination et par sa volonté aussi de faire peur par plusieurs moyens au cadre du parti, que ce soit dans les médias, dans la recherche et au sein du Politburo.
Merci beaucoup Alice Ekman. Je rappelle que vous êtes chercheuse, spécialiste de la Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes également auteur de La Chine dans le monde. C'est paru aux éditions du CNRS.
Europe 1.
Drame sur les stades, des amours des joueurs, piètre performance de l'équipe de France, le rugby est dans la tourmente. Mon prochain invité veut redorer le blason de son sport. L'ancien rugbyman et entraîneur Mathieu Blin est avec nous dans un instant.
Il sera 18h30, votre grand journal du soir se poursuit avec Philippe Vandel.
Et il se poursuit avec le rappel des titres de Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Xi Jinping en France, dans le cadre de sa mini-tournée européenne. Après une visite d'État à Monaco cet après-midi, le président chinois dîne ce soir à Beaulieu-sur-Mer avec le couple Macron. Une enquête a été ouverte après qu'une gilet jaune a été gravement blessée hier à Nice. La femme de 73 ans qui participait à une manifestation non autorisée est tombée au sol après une charge de la police. Selon sa fille, elle souffre de plusieurs fractures au crâne. Un hommage 20 ans après l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Il a été rendu à Chamonix en présence de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. 39 personnes avaient perdu la vie dans la catastrophe. Des djihadistes du groupe État islamique cachés dans des tunnels à Barouz. Ils se sont rendus aujourd'hui à 24 heures après la chute du califat. Et puis le cauchemar est terminé pour les passagers du Viking Sky en Norvège. Le bateau de croisière en panne, en pleine tempête, avec 1300 passagers à bord, a été remorqué cet après-midi et a rejoint un port.
Merci beaucoup Sophie, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour votre journal complet.
Europe 1.
La météo, c'est avec vous évidemment Valérie Darmon. Demain, le beau temps va dominer à peu de choses près.
Alors oui, du côté des bémols, des Hauts-de-France au Grand Est, vous risquez tout de même quelques averses avec un petit peu de neige sur les Vosges et le Jura des 800 mètres. Des côtes normandes au bassin parisien à la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel est changeant, alternant nuages et éclaircies. Sur Rhône-Alpes, après la dissipation des nuages bas, de belles éclaircies vont revenir en milieu de journée. Mais ensuite, le ciel va s'ennuager de nouveau en soirée. Ce sera une heure oui, une heure non. Et puis sur toutes les autres régions, c'est-à-dire l'Aquitaine, le Poitou-Charentes, le Massif central, l'Occitanie, PACA. Alors là, vous conservez du beau temps, mais le vent souffle fort, notamment en soirée pour le Mistral et la Tramontane, jusqu'à 100 km/h en rafale en Basse-Vallée du Rhône et en Provence. Les températures sont légèrement en baisse, côté maximal, entre 9 à Langres et 21 à Montpellier, 13 annoncés à Paris demain, 16 à Bordeaux et 19 à Marseille.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Bonne fin de week-end avec Europe 1 et avec Philippe Vandel. Maintenant, dans votre grand journal du soir et à 18h30, on va parler sport Philippe, mais pas seulement.
Oui, le rugby français dans la tourmente. La France a fini seulement 4e du tournoi Destination et la Coupe du Monde se profile. On se demande bien comment. Le président Bernard Laporte est fragilisé par les affaires et signe avec ça. 307 000 licenciés, c'est pas rien. Sauf que ce chiffre est en chute libre depuis quelques années, notamment à cause des blessures de plus en plus graves, car le jeu est de plus en plus dur. Bonsoir Mathieu Blin.
Bonsoir à tous.
Vous êtes ancien rugbyman, ancien entraîneur et manager d'Agen, consultant sur Canal+, et vous avez le projet de réaliser une série de documentaires pour comprendre ce qui ne va pas dans le rugby français. Vous ne voulez pas passer par une chaîne de télé traditionnelle et vous faites un appel aux dons via une cagnotte. C'est sur Ulule, vous nous direz où exactement, comment on fait. Pour l'instant, vous avez récolté 11 000 euros sur les 68 000 espérés. Vous avez réalisé une sorte de bande-annonce. On va commencer par ça. Voici les premières secondes de votre bande-annonce. Ça démarre très fort avec des extraits de journaux télévisés authentiques.
La mort de trois jeunes joueurs cette année, à chaque fois des chocs violents sont à l'origine de leurs blessures.
C'est un sport endeuillé qui tente d'évoluer. Le rugby français a été ébranlé par trois décès en seulement 7 mois.
Trois morts en quelques mois, quel rapport avec les problèmes généraux du rugby français ?
Bah déjà parce que c'est insupportable et de perdre des petits frères quand on est rugbyman professionnel. Moi j'ai commencé à 12 ans, j'ai fait 11 ans de carrière. Après j'étais entraîneur, j'étais président du syndicat des joueurs, je suis consultant. Quand on ne vit que dans ça, de voir des petits frères partir, c'est insupportable et on est obligé de se demander pourquoi.
Évidemment, mais est-ce que tout est lié ?
Tout est lié, en tout cas il y a des interactions, on est sur des conséquences de causes, donc il faut plutôt plonger sur les causes que simplement commenter les conséquences, puisque là l'émotion est toujours un petit peu trop prégnante.
Les causes c'est quoi alors ?
Les causes c'est que le rugby effectivement est un sport de combat, un sport avec des contacts et des affrontements, il y a eu une athlétisation très forte des joueurs, puisque le rugby est devenu professionnel depuis 1995, et qu'il faut que la règle puisse aider ses conduites pour qu'il y ait le moins d'accidents possible. Évidemment, le zéro n'existera jamais, mais là il y a eu trop de décès. C'est insupportable de le dire, j'ai un peu même du mal sur un laps de temps aussi court.
Pour vous donner raison, une statistique assez incroyable, en 10 ans, les joueurs du top 14, c'est-à-dire le championnat de France d'élite, en 10 ans, ils ont pris 10 kilos. Pour dire la musculature qui a changé, mais est-ce que ça vient de la professionnalisation ?
Ça vient du très haut niveau, alors évidemment la population mondiale grandit, elle est plus lourde, mais évidemment les sportifs qui sont dans la très haute performance sont sur cette recherche et une optimisation. On s'est trompé en France, on était dans l'hyper-athlétisation, on était sur l'hypertrophie, avoir des gros biceps et des gros pectoraux, ça ne sert strictement à rien, c'est le rapport poids-puissance, donc la vitesse, et on se rend compte que les équipes qui gagnent, les All Blacks, que tout le monde adule, jouent très vite, donc il faut plutôt retourner sur cette vitesse-là.
Alors, on l'a dit, en 2018, trois jeunes joueurs français de rugby sont morts en quelques mois après un match et la Fédération de rugby et la Ligue ont proposé d'adopter des nouvelles règles qui vont être testées la saison prochaine dans les compétitions amateurs, adultes et jeunes. 8 changements de règles, on ne va pas toutes les donner ici. La plus importante peut-être l'abaissement de la ligne de plaquage des épaules à la ceinture. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est une obligation d'y réfléchir et que cette proposition va dans le très bon sens puisqu'on sait que la zone du rachis, c'est-à-dire les cervicales avec le cerveau, on parle des commotions, il y a la boîte crânienne qui tient notre cerveau, doit être le plus protégé possible. Donc de baisser la ligne de plaquage, ça veut dire qu'on rentrerait en contact sur la partie la plus importante du corps et pas la plus vulnérable.
Vous savez que c'est encore plus compliqué que ça puisqu'en Angleterre, cette mesure a été testée en deuxième division. Ils l'ont abandonnée en cours de saison parce que si les deux joueurs, c'est-à-dire le porteur du ballon et le plaqueur, se baissent en même temps, le risque de commotion était encore plus grand.
Il y avait une capacité à pouvoir se rentrer tête contre tête ou alors d'aller taper sur les hanches. Il faut revenir au plaquage un petit peu comme on apprend à l'école de rugby, c'est-à-dire de se faire glisser jusque cheville. Et il y a toute une technicité.
À l'ancienne.
À l'ancienne, ou en tout cas avec une technicité qui doit être remise au milieu de toutes nos interrogations et de toute notre concentration. Évidemment, la formation des formateurs, puisqu'on parle toujours de jeunes qui sont bien ou pas bien formés, mais il faut parler de ceux qui les forment bien, donc donner beaucoup d'outils à ces personnes-là.
Alors, vous l'avez dit, plus de choc tête contre tête, plus de plaquage à deux, une règle d'avertissement avec des points, on pourra faire sortir quelqu'un s'il est exagéré, sans toutefois totalement pénaliser le jeu. Autre changement de règle pour fluidifier le jeu, alors je la cite, rendre le ballon à l'équipe qui trouve une touche indirecte, c'est-à-dire après un rebond, entre ses 22 mètres et la moitié de terrain. J'ai pas tout compris, Marlène, pour expliquer.
C'est cela, oui.
L'idée c'était de faire en sorte que le premier rideau défensif soit un petit peu moins épais, moins important, en mettant des joueurs plutôt dans le fond de cours. C'est pour ça que cette touche aurait été remise à ceux qui ont donné le coup de pied.
Je m'adresse à tous les parents qui nous écoutent et dont les enfants jouent dans des clubs de rugby. Il y en a beaucoup, beaucoup partout en France, y compris dans la région parisienne. Le neurochirurgien Jean Chazal propose de ne plus classer les joueurs en fonction de leur âge, comme ça se fait, mais en fonction de leur poids. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est ce qui est fait en Nouvelle-Zélande, on fait des catégories de poids, mais c'est aussi ce qui est fait en boxe, dans le judo, donc on pourrait imaginer que pour les plus jeunes,
mais
ce serait très intéressant.
Ça paraît bon sens même, pourquoi on ne le fait pas ?
Parce que la mixité et des morphotypes et des différences de provenance dans le rugby est très importante. Effectivement, jusqu'à un certain âge, ça pourrait être en tout cas testé, même si la mise en œuvre est un petit peu compliquée. En ce moment, on s'en fout de la mise en œuvre, combien ça coûte ou si c'est compliqué, il faut qu'on change les choses.
Ah bah tiens, parce que vous parlez d'argent, dans un courrier, le président de la fédération, Bernard Laporte, a reconnu une dégringolade du nombre de licenciés, moins 5% entre 2017 et 2018, moins 10% chez les jeunes. Comment enrayer cette chute selon vous ?
En remettant évidemment la règle au milieu de tout ça, en ayant une énorme prévention très pédagogique pour montrer que ce sport assez incroyable, puisque c'est un sport collectif avec les différents morphotypes, tout le monde peut avoir sa place. Le sport, c'est un lien social, c'est un vrai outil du vivre ensemble, donc le rugby doit montrer ça.
Alors, je l'ai dit, Mathieu Blin, vous projetez de réaliser un documentaire. Pour ceci, vous avez besoin de fonds, une cagnotte. Comment on fait si on veut vous donner des sous ?
Comment on fait ? On va sur le site Ulule, c'est un crowdfunding. Moi, je veux que ce film qui serait proposé en web-série et gratuit sur le net, on donne de l'argent parce que ça nous concerne
Ulule,
tous.
Une fois qu'on est sur Ulule, il y a écrit Mathieu Blin.
Non, on clique sur à quoi on joue et on va sur ce superbe projet qui sera diffusé gratuitement parce que je ne voulais pas qu'il y ait de prisme de n'importe quel diffuseur privé.
À quoi on joue ici à l'info au rugby. Merci beaucoup Mathieu Blin d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Europe 1.
Ressusciter la culture en grand-messe du prime time à la télévision, mon prochain invité a eu l'idée de faire revivre une émission culte des années 70, Le Grand Échiquier, deuxième numéro diffusé mardi soir. On en parle avec le patron de la culture à France Télévisions, Michel Field, puisque c'est de lui dont il s'agit. Et puis, la chronique média de Renaud Revel à suivre. On parle de la fusion entre LCP et Public Sénat, un serpent de mer, mais qui risque d'arriver, dit Renaud Revel.
18h-20h. Votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est 18h39, l'heure de parler médias, Philippe Vandel.
Le Grand Échiquier revient doublement. L'émission culte créée par Jacques Chancel dans les années 70 a été relancée par France 2 en décembre dernier. 3h30 de culture, tout en direct avec Anne-Sophie Lapix aux commandes. Rebelote, mardi soir à 21h. Bonsoir Michel Field.
Bonsoir.
Non, vous n'êtes pas l'invité du Grand Échiquier. Vous êtes désormais directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions. Et à ce titre, c'est vous qui avez chapeauté, voulu le retour du Grand Échiquier.
Oui, c'était la volonté de retrouver une sorte d'emblème. Même les gens qui ne savent pas exactement ce qu'était le Grand Échiquier savent que le mot équivaut à ambition du service public, une heure de grande écoute pour une émission un peu exigeante. Donc ça, c'est on est, disons, dans le classique. Et puis parallèlement à ça, avec les partenaires de l'audiovisuel public, on lançait Culture Prime, le réseau social culturel, pour toucher des plus jeunes générations. Parce qu'évidemment, le Grand Échiquier touche plutôt notre cœur de cible.
Alors justement, pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, c'est quoi le Grand Échiquier ?
C'est un lieu de rencontre d'artistes d'univers totalement différents. Renaud Capuçon, violoniste hors pair, Laurent Gérard, humoriste hors pair.
Ça, quel c'est rapport, le programme de l'émission.
Quel rapport entre les deux, à part l'amitié qui les lie ? Ben, une curiosité réciproque, des rencontres, quelques numéros faits pour ça. Rencontre des générations, on va avoir par exemple une icône qui est Jane Birkin. Par rapport à peut-être quelqu'un qui sera une icône qui est en train de le devenir, c'est Angèle. Et on va avoir un duo Angèle-Jane Birkin qui, pour moi, symboliquement, ressemble à Jeanne Moreau-Vanessa Paradis qu'on a tous en mémoire au Festival de Cannes.
Alors, puisque vous en parlez, à part Laurent Gérard, Renaud Capuçon, le violoniste, Angèle, Mourad Merzouki, Jane Birkin, Vincent De Dienne, c'est quand même une programmation très bobo CSP+. Pourquoi ce choix ? Mais la culture, c'est ici, ça passe par là ?
Alors, Merzouki, il serait ravi de savoir que c'est un bobo, lui qui a vécu toute son enfance dans les cités.
Non, mais la danse contemporaine, c'est un truc de bobo.
Mais la danse contemporaine, quand
vous savez, et c'est pas un reproche que je fais. Hein.
Je suis absolument pas d'accord avec vous, on va recommencer à s'engueuler comme au bon vieux temps. Merzouki, c'est le type qui fait rentrer le hip-hop et les cultures de la rue dans la danse contemporaine. Il n'y a rien de bobo là-dedans, il y a à un moment donné, c'est comme si, je sais pas, vous disiez que je suis tellement indigné. Non, je plaisante. Vous vous trompez, le milieu artistique, on va pas l'inventer, il est ce qu'il est. Je pense que quand on fait venir des jeunes rappeurs qui se confrontent à des musiciens classiques, on donne un message, j'allais dire, de frottement de culture, et précisément on essaye de désenclaver la culture classique de ce qu'elle a de convenu. Bon, alors c'est un effort renouvelé et inlassable, mais je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas bobo, c'est juste exigeant.
Si le Grand Échiquier revient, c'est parce que ça avait bien marché ou parce que c'est dans les obligations du cahier des charges ? Les chiffres étaient bons.
Les chiffres étaient bons, on était absolument dans la moyenne de la case, comme on dit, c'est-à-dire on a eu plus de 2 millions de téléspectateurs.
Pour les auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas les chiffres, 2,2 millions de téléspectateurs, 10,2% de part de marché, France 2 était deuxième de la soirée. C'est quand même une sacrée performance avec des têtes d'affiche comme Daniel Auteuil, mais aussi Aurélie Dupont et Roberto Alagna.
Ah, c'est bobo ce que
non,
vous dites.
Non, je veux dire pas là que c'est une danseuse et un ténor, c'est pas les Kardashians.
Non, mais c'est ça. Non,
je veux dire, ramener du monde avec des choses exigeantes, c'est un compliment
non,
que je fais, bravo.
C'est ce qu'on essaye de faire, mais on prend des risques là, vous savez, il y a quelques semaines, on a fait le grand oral, le premier concours d'éloquence.
Ouais. Ah bah tiens, j'allais en parler.
C'était un truc totalement inédit, on l'a vraiment écrit de notre petite main du début à la fin. Bon, l'audience a été un peu décevante, plus décevante que le Grand Échiquier.
Sous le million et demi.
Mais en revanche, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que sur les réseaux sociaux, l'émission surperforme, puisqu'il y a deux vignettes qui dépassent les 12 millions de vues aujourd'hui.
Dont une que j'ai passée ici, mon invité était Emmanuel Chin, qui était un des coproducteurs, l'avocate sourde et muette qui a appris à parler en faisant des sons, sons qu'elle n'entend pas elle-même. C'était juste sidérant.
Et c'était, elle a suivi et elle a participé à toutes les missions avec son interprète en langage des signes. Donc, c'est vrai qu'on accuse toujours le service public de ne pas en faire assez. Les gens sont un peu schizophrènes. Ils réclament de l'opéra en prime time, mais quand on leur propose, ils ne sont pas là pour
ils
le voir.
Top Chef.
Donc on fait attention, mais en même temps, c'est vrai que cette rentrée entre Culture Prime, le grand échiquier, le grand oral, je crois qu'on a donné des signes d'investissement culturel profond.
Le grand oral, il y aura un deuxième numéro ou vous arrêtez là?
C'est décidé, c'est annoncé. On en fera un l'année prochaine.
J'ai découvert ça en préparant ces interviews. Le Grand Échiquier, on l'a pas dit, est présenté par Anne-Sophie Lapix, si vous l'avez dit. Mais on vous avait proposé de présenter Le Grand Échiquier.
Non, mais il y a longtemps.
Et vous avez décliné. Pour quelle raison?
Ben, c'est Pierre-Antoine Capton, le producteur, est animé par cette volonté de remettre Le Grand Échiquier depuis des années. Et quand j'étais à LCI Europe 1, dans ma vie d'avant, c'est vrai qu'il m'avait approché pour le faire.
Ah bon? Mais je crois
faire.
Que c'était France 2 qui vous a demandé
non,
de présenter.
Non, c'était Pierre-Antoine qui est en plus le dépositaire, j'allais dire le légataire moral de Jacques Chancel, donc c'est lui. Bon, moi ça m'a honoré incroyablement. Moi, j'ai dit non parce que j'étais engagé à cette époque-là dans d'autres aventures.
Mais
et maintenant, je n'ai aucun regret.
Mais vous avez
je
dit...
pense que Anne-Sophie Lapix est absolument
Michel
la bonne
Field,
personne à la bonne
menteur,
place, au bon moment.
Mais quel menteur, Michel Field. La Pure Média, le 18 février, vous avez dit que quand Delphine Ernotte vous avait proposé la direction de France 5, puis celle de l'info de France 2, vous avez décidé de quitter l'antenne. C'est pour ça que vous n'avez pas présenté Le Grand Échiquier.
Non, mais allez, vous avez raison.
Vous n'étiez pas à France 2 à l'époque.
Non, c'est... pour ma présence à l'antenne que je répondais à Pure Média. Pour Le Grand Échiquier, la proposition de Pierre-Antoine Capton, et c'était bien avant que je rencontre Delphine Ernotte et que je décide de tout plaquer pour France Télévisions.
Je précise que vous êtes également agrégé de philosophie, je ne me trompe pas.
Non.
Et vous avez...
Ça, c'est à vie, vous savez.
C'est à vie. Mais alors, autre chose que vous avez refusé à vie, peut-être un regret, vous avez refusé de présenter l'émission L'île de la Tentation.
Oh là là, tu déterres de vieille.
Non, d'abord, on ne se tutoie pas, on fait comme si on ne se connaissait pas, mais deuxièmement, comment se fait-il que vous ayez hésité à présenter L'île de la Tentation, Michel Field?
Est-ce qu'il vous est arrivé de déconner dans une soirée certainement trop arrosée et à un moment donné de dire avec les dirigeants de TF1 de l'époque, c'était Xavier Couture, ben ouais, finalement, l'intérêt sociologique d'une daube pareille, ça doit valoir le coup d'y aller, etc. Bon, une fois que j'ai dessoulé, si vous voulez, l'idée quand même d'offrir ma corpulence en maillot de bain aux téléspectateurs de TF1, je pense pas que ce serait allé très loin, mais voilà, au moins, c'est une connerie dans ma vie que j'aurais pas faite. Voilà.
Et je vais vous répondre, Michel Field, ça ne m'est jamais arrivé car je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je rappelle que vous êtes le patron de la culture, le directeur de la culture et du spectacle vivant à France Télévisions et Le Grand Échiquier. C'est sur France 2, mardi à 21h.
Merci beaucoup et bonne chance et longue vie à ma station préférée.
Merci Michel Field.
Station préférée, à savoir Europe 1. Philippe Vandel, on va rester dans les médias maintenant avec Renaud Revel.
La chronique média, comme chaque semaine, de Renaud Revel. Bonsoir Renaud.
Bonjour Philippe.
Alors le thème à chaque discussion budgétaire, le débat devient récurrent. LCP, la chaîne parlementaire et Public Sénat, les deux chaînes parlementaires qui dépendent de l'Assemblée et du Sénat, donc, ne coûtent-elles pas trop cher par rapport à leur audience très faible? Et autre question induite, à quand leur fusion? Un serpent de mer qui semble, dites-nous, toucher à sa fin. Vous nous dites, Renaud, que cette fusion est enfin en route.
Oui, oui, Philippe. Et c'est un audit des deux chaînes réalisé par un cabinet indépendant fin janvier qui les a convaincus que non seulement cette fusion voulue par Emmanuel Macron au nom d'une bonne utilisation des deniers publics était quelque chose de parfaitement envisageable sur le plan technique, mais surtout une évidence sur le plan économique. La cohabitation de ces deux chaînes a, il est vrai, quelque chose de totalement singulier et d'aberrant. La France est en effet le seul pays au monde à disposer de deux chaînes parlementaires concurrentes. Des chaînes jumelles, avec des effectifs voisins et des budgets quasi identiques. 18 millions d'euros pour Public Sénat et 17 millions pour LCP.
Et qu'est-ce que ça donne côté Audimat?
Très très moyen. Ces deux antennes font jeu égal avec une part d'audience moyenne de 0,4%, ce qui n'est pas fameux.
Ah non.
Avec une durée d'écoute quotidienne de 17 minutes. C'est maigre là encore.
Très peu.
319 000 téléspectateurs, c'est le chiffre d'audience record atteint le 4 mars dernier par LCP depuis sa création. C'est dire la petitesse de cette chaîne en termes d'audience.
Et oui, on comprend que tout ça paraît un peu ubuesque à l'heure où Bercy s'arrache les cheveux pour financer un audiovisuel public à genoux sur le plan budgétaire.
Ben oui, oui, et parmi les aberrations soulevées par cet audit, il y a notamment le recours par LCP et Public Sénat, qui sont financés, il faut le rappeler, par les contribuables, à une armée d'intermittents pour les faire tourner, 3000 journées d'intervention d'intermittents ou de pigistes pour chacune de ces deux chaînes, l'an passé.
Alors qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir?
Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont décidé de suivre les préconisations de ce rapport qui conseille la nomination rapide d'un chef de projet chargé de plancher sur une préfiguration concrète d'un rapprochement qui débouchera inévitablement sur une fusion de ces deux chaînes à l'horizon 2020. Deux chaînes placées demain sous l'autorité d'un seul et même PDG.
Oui, mais c'est là que ça va se compliquer, parce qu'il y a deux PDG maintenant.
Oui, c'est là que les choses, vous avez raison, vont se compliquer, et durement même. Qui du Sénat, en effet, ou de l'Assemblée, pilotera ces travaux? Qui du PDG de Public Sénat, Emmanuel Kessler, ou de celui de l'ECP, Bertrand Delay, un proche d'Emmanuel Macron, sera demain le patron de ce nouvel ensemble? En coulisses, la bataille fait déjà rage, et au vu des relations tendues entre le Sénat et l'exécutif dans le cadre de l'affaire Benalla, le président du Palais de Luxembourg, Gérard Larcher, n'est pas disposé du tout à laisser son compère de l'Assemblée, Richard Ferrand, prendre la main sur ce dossier hautement symbolique.
Mais vous savez quoi? J'imagine que Richard Ferrand, qui est du même parti que le président, n'a pas du tout envie de laisser le président du Sénat prendre la main sur ce dossier symbolique, comme vous dites.
Sans doute, sans doute.
Merci beaucoup, Renaud Revel. À la semaine prochaine. Dans un instant, que vous soyez au volant ou pas, vous retrouverez Pierre de Villeneuve dans Tout roule, c'est sa chronique auto. Quel vénard, il a pu tester la nouvelle Tesla.
18h54 et on pense à vous qui êtes en voiture. C'est l'heure de Tout roule, avec vous Philippe Bandel.
Tous les dimanches soirs, c'est Tout roule, la chronique auto de Pierre de Villeneuve. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, c'est une voiture dont on nous parle depuis des années, on nous l'annonce comme le Messie. La voilà enfin, et vous avez pu l'essayer, c'est la Tesla Model 3. Je dis enfin, car si je vous ai bien compris hors antenne, Mehdi, c'était un accouchement dans la douleur.
C'est vrai que la com de Tesla nous annonçait cette voiture comme révolutionnaire. Une compacte aussi performante que la limousine Model S, avec la même autonomie, mais à un prix raisonnable. À l'époque, on nous la mettait à 35 000 $, donc à peu près 32-33 000 euros. Tout était nouveau, même la façon pour se la procurer. On signait une précommande sur Internet avec une caution de 1 000 $. C'est un peu curieux s'abstenir, hein, on déconne pas avec Elon Musk. Ouais. Plein de gens ont joué le jeu et plein de gens ont attendu. Et attendu, comme on attend un peu Godot. Délai supplémentaire, du cafouillage dans les usines, des pièces qui n'arrivaient pas, des analystes financiers à Wall Street très pessimistes, ce qui fait que l'action Tesla a commencé à dévisser. Imaginez la tête des futurs propriétaires, ceux qui étaient quasi sûrs de perdre 1 000 $ dans l'histoire. Et puis finalement, la voilà. Cette Model 3, comme on dit, à la fin d'un repas délicieux qui pourtant nécessitait une heure de queue devant le restaurant, ça valait le coup d'attendre.
Ah oui, et pourquoi alors? Racontez.
Parce que Tesla nous surprend encore. On croyait avoir tout vu avec la première Model S, avec le spectaculaire ensuite monospace Model X, et alors que Tesla vient tout juste d'annoncer la semaine dernière l'arrivée du Model Y, traduisait le petit SUV, et bien cette petite limousine, la Model 3, pour reprendre la pub d'une française des années 90, cette Model 3 a tout d'une grande. C'est véritablement le copier-coller de sa grande sœur au format européen. Et oui, la Model S, au quotidien, dans les rues comme celle de Paris, Londres, Genève, Rome, Berlin, Madrid, elle est trop grande, elle est trop large. Les parkings souterrains de Paris, de Nice ou de Besançon, ils sont calibrés pour des Clio. C'est l'un des gros défauts de la Model S. Elle a un tout petit rayon de braquage, c'est-à-dire qu'il faut tourner 2-3 fois avant d'y arriver. Elle n'a pas les roues arrière directrices comme les grosses berlines allemandes. La Model 3, elle se glisse partout. Et en plus, elle est encore plus belle. Elle est plus ergonomique que sa grande sœur. Allez, je vous emmène. Alors voilà, c'est ce qu'on entend dans une Tesla 3 avec des mauvais micros lorsqu'on est à 70 km/h. On entend donc du coup les bruits de l'extérieur. Vous n'entendez pas un vroom, une accélération? Rien. Il n'y a pas de moteur thermique. Au choix, une version bimoteur, un à l'avant, un à l'arrière. Et, ou alors juste un à l'arrière, donc ça fait une propulsion. Et sur la version la plus puissante, on est littéralement scotché lorsqu'on accélère. Je crois que vous avez fait l'expérience, vous, avec une Model S.
Oui, la précédente, et c'est absolument prodigieux. Le silence, la vitesse et la reprise n'importe où.
Voilà, c'est exactement pareil, sauf que l'intérieur a été un peu modifié. On a une belle planche de bord unique. Alors, il y a un volant, une planche de bord,
dingue,
en alu ou en bois, et un seul écran, comme on a cet écran d'ordinateur dans notre studio, où tout est géré, et même votre smartphone. Votre smartphone gère la voiture, il n'y a plus de clé. On a le smartphone qui est branché à la voiture, elle reconnaît votre smartphone quand vous arrivez et vous rentrez dedans, et vous pouvez même la piloter, vous pouvez la faire sortir d'une place difficile avec votre smartphone comme une télécommande.
Mais attendez, je pense à quelqu'un qui, par exemple, est ministre, qui sort de boîte, il n'a plus de batterie à son smartphone, il ne peut pas partir.
J'attendais cette question. Vous avez une mini carte bleue dans votre portefeuille et ça fait office également de voiture reconnaissante. Donc voilà, c'est une voiture assez unique, c'est une expérience, on va dire, assez prodigieuse. L'avant est très beau parce qu'il fait penser à une Porsche 911, et je dois dire que cette voiture est totalement unique. Voilà.
35 000 $, ça tient la promesse?
Ben non, on n'a pas tenu la promesse et ça, l'écueil, c'est qu'on est quand même en version de base, entre guillemets, à 50 300 euros. Ah. Avec le bonus déduit, donc normalement 56 000, puisqu'il y a 6 000 euros de bonus.
Ouais.
Donc c'est ça l'écueil, c'est qu'on nous promettait une voiture à 35 000 dollars, à 32 000, 33 000 euros, on est à 20 000 euros de plus. Il n'y a pas vraiment d'explication, comme il n'y a jamais d'explication chez Tesla, mais on nous dit voilà, plus on va en faire, plus on va en vendre et plus le prix va baisser.
Merci Pierre de Villeneuve, on se retrouve la semaine prochaine pour Tout Roule. Et si j'ai bien compris, on sera encore dans l'électrique. Mes chers auditeurs, ce n'est pas ce que vous croyez. Dans un instant, le journal de 19h de Sophie Tussaud, à tout de suite sur Europe 1.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
18h-20h,
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour de l'info et des infos. Le vieillissement de la population française est un enjeu majeur. Le nombre de personnes dépendantes devrait augmenter de 1,3 million en 2016 à 2,4 millions en 2060. Et les dépenses consacrées à la dépendance pourraient doubler en 20 ans. En avant-première, Marianne Monchamp, qui est la présidente de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dévoile à Europe 1 le rapport qu'elle rendra demain à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle sera mon invitée à 19h15. Et puis, dans la dernière demi-heure, notre grand débat où il sera question des retraites, mais également des gilets jaunes, de l'opposition qui peine à faire des propositions à droite comme à gauche, et même de la casquette du préfet.
Suivez Philippe Vandel sur Twitter et commentez avec le hashtag Europe 1. N'hésitez pas à réagir. 19h, bonne fin de week-end à tous. Le journal, Sophie Tussaud, Philippe Vandel.
Bonsoir Sophie.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
Le président chinois en visite d'État en France, une rencontre avec le prince Albert cet après-midi à Monaco et un dîner privé ce soir près de la mer avec le couple Macron. Une manifestante de 73 ans, grièvement blessée hier à Nice lors d'un rassemblement de gilets jaunes, une enquête est en cours. Pendant 24 heures, ils ont cru que leur dernière heure était arrivée. Les 1300 passagers d'un bateau de croisière en Norvège ont finalement rejoint la terre ferme. Et puis être un fin gourmet c'est bien, mais respecter en plus la planète c'est mieux. C'est le message du festival Gourmand Goût de France.
Le président chinois poursuit donc sa mini-tournée européenne sur la Côte d'Azur.
Xi Jinping est arrivé la mi-journée à Nice, première étape Monaco pour une visite d'État. Il s'est entretenu durant 2h30 avec le prince Albert cet après-midi sur des sujets économiques et environnementaux. Ce soir, c'est Emmanuel Macron et son épouse qui le reçoivent à Beaulieu-sur-Mer pour un dîner privé à huis clos dans une villa qui surplombe la mer. Adrien Beck, le couple présidentiel chinois est reçu en grande pompe. Pour autant, les sujets qui fâchent seront abordés.
Oui, et ce soir, autour de la table dans les salons de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, Emmanuel Macron et son homologue vont pouvoir défricher. Ce tête-à-tête, c'est un moment très important, souligne-t-on à l'Élysée. Outre les discussions sur d'éventuels contrats dans l'aéronautique, les deux présidents pourront aborder un sujet récurrent avec la Chine, les droits de l'homme. C'est un thème qu'on aborde dans la discrétion, explique un conseiller d'Emmanuel Macron. L'autre grand sujet de discorde, c'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. La Chine qui investit des milliards dans des ports, des routes, des chemins de fer pour mieux inonder l'Europe de ses marchandises. Dernier exemple en date hier avec la signature d'un protocole entre Pékin et Rome. Les Chinois vont par exemple financer des travaux dans les ports de Trieste et de Gênes. Ce qui inquiète côté européen. Alors Emmanuel Macron veut une position européenne plus affirmée, plus unie, plaide-t-on à l'Élysée. C'est d'ailleurs l'objet de la rencontre mardi entre le président français, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker et Xi Jinping, avec un objectif pour l'Élysée. Travaillons ensemble, mais ne soyons pas naïfs.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1.
Question, que s'est-il passé hier à Nice entre la police et une manifestante de 73 ans?
L'enquête en cours devra le déterminer. La femme qui participait à un rassemblement de gilets jaunes, place Garibaldi, malgré l'interdiction de manifester, est tombée à terre lors d'une charge de la police. Selon sa famille, qui va porter plainte, elle souffre de plusieurs fractures au crâne. Célia Boumédien est représentante départementale du syndicat Unité SGP Police. Elle comprend que les images ont choqué, mais ne doute pas du professionnalisme de ses collègues.
c'est très difficile pour mes collègues d'être l'objet de critiques. Il faut rappeler le pourquoi de ces blessures de cette dame qui est regrettable, c'est qu'elle a participé en tant que manifestante, hein, pas en tant que passante, à une manifestation qui était interdite. Mes collègues ne sont pas là pour blesser. Il y a eu des sommations demandant aux manifestants de se disperser. À partir du moment où vous restez, malgré cette interdiction et malgré les sommations, il y a des risques, effectivement, et malheureusement, d'être blessé.
Est-ce que la charge était pour vous proportionnée au regard du nombre de manifestants, de leur âge ?
Oui, pour moi, la charge était proportionnée. Il y a une enquête qui est en cours. Il faut laisser l'enquête se faire sur les raisons pour lesquelles il y a eu ces blessures. Maintenant, c'est très difficile pour mes collègues qui sont usés, fatigués, qui ont été rappelés sur leur jour de repos. Mais ils ont su faire preuve de professionnalisme.
Célia Boumédien, représentante départementale du syndicat Unité SGP Police, répondait à Théo Manval. Lors de cet acte 19 des Gilets jaunes, les forces de l'opération Sentinelle étaient mobilisées pour protéger les sites sensibles, avait prévenu le gouvernement. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon avait appelé les militaires à désobéir, à ne pas tirer sur les manifestants. Irresponsable pour le secrétaire d'État Gabriel Attal, invité ce matin du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Le gouverneur militaire de Paris a dit qu'aujourd'hui, quand un soldat de la force Sentinelle est attaqué et craint pour sa vie, il réplique. Mais c'est le cas aujourd'hui quand il fait de la lutte contre le terrorisme face à un site sensible. Un certain nombre d'oppositions n'ont pas cru que les armées allaient faire du maintien de l'ordre. Elles ont essayé de le faire croire aux Français. Elles ont menti aux Français gravement. Franchement, moi, j'ai été très attentif à ce qui a été, dit. Il y a eu une surcommunication et une surinstrumentalisation des oppositions. Et c'est totalement irresponsable ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il cherche l'escalade des violences. Jean-Luc Mélenchon, il aimerait, je pense, qu'on ait un accident grave dans une manifestation. Si quelqu'un venait à décéder dans une manifestation, je suis pas sûr qu'il le regretterait. En tout cas, je pense que ça servirait sa course à l'escalade et sa course à l'instrumentalisation. Et nous, on veut lutter contre ça. C'est pour ça que j'espère avoir été clair sur cette question.
Le secrétaire d'État Gabriel Attal, invité du grand rendez-vous Europe 1, qui dénonce donc une instrumentalisation. Écoutez la réponse de Jean-Luc Mélenchon.
C'est extrêmement virulent, hein, mais il ne se rend pas compte de l'aveu qu'il fait en parlant comme il le fait. D'abord, il dit, Mélenchon, fait croire qu'on allait utiliser l'armée. Non, jeune homme. C'est le gouverneur militaire de Paris qui a dit que oui, on les utiliserait et que le cas échéant, ils tireraient. Donc, à cet instant, M. Attal fait le numéro des robots de la République en marche, on leur met une feuille avec des trous, vous savez, comme dans un piano mécanique, et ils débitent leurs arguments de langage. Mais la deuxième partie de la séquence est terrible. Il dit Mélenchon aimerait qu'il y ait un incident grave, quelqu'un qui meurt. Mais il y a déjà quelqu'un qui est mort. À Marseille, il y a une femme qui est morte d'avoir pris une grenade. Elle compte pas, cette femme. C'est pas un incident grave. Les cinq mains arrachées, c'est pas des incidents graves. Les 18 personnes éborgnées, c'est pas des incidents graves. 2000 personnes blessées, c'est pas grave. Cet homme ne sait plus ce qu'il dit. Il a un comportement qui manifeste une espèce de, comment dire, vous savez, de mépris pour ces gens qui ne sont rien, quoi, comme disait le président de la République. Donc pour lui, tout ce que je viens de vous dire, cette liste, il ne la présente ni à l'esprit, ni au cœur.
Jean-Luc Mélenchon, chez nos confrères de LCI.
Un bateau de croisière frôle la catastrophe en Norvège et dans un tout autre genre, un festival gourmand. On vous dit tout dans un instant sur Europe 1.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Il est tout juste 19h08, la suite du journal sur Europe 1, c'est avec vous Sophie Tussaud et Philippe Vandel.
Ils ont bien cru que le pire était arrivé et finalement ils sont sains et saufs.
Les 1300 passagers d'un paquebot ont vu leur croisière en Norvège virer au cauchemar. Leur paquebot est donc tombé en panne, en pleine tempête et après 24 heures d'angoisse, le soulagement et le retour à la terre ferme, Claudia Bertram.
Oui, tous les passagers du paquebot Viking Sky ont enfin regagné la terre ferme. Le navire de croisière a rejoint un port de refuge il y a quelques heures, escorté par plusieurs remorqueurs. Les personnes à bord ont vécu de longues heures d'angoisse. Des images impressionnantes tournées depuis l'intérieur montrent le bateau tanguer fortement. Le mobilier valse de part et d'autre au gré des vagues, certaines atteignant 15 mètres. Un faux plafond s'écroule sur certains passagers. Denise et Mike, un couple d'anglais, racontent.
Les chaises, les tables, les couverts se sont renversés. J'ai été emportée avec, j'ai des bleus partout. On m'a même fait des points de suture sur la jambe. Mais ça va, certaines personnes sont dans un état bien pire. Mais les gens sont fantastiques.
Ils ont tellement bien pris soin de nous. Tout le monde a été d'un grand soutien. Ils ont fait tout ce qu'il était possible pour nous. Nous sommes très reconnaissants.
Denise et Mike font partie des 460 passagers élitreuillés grâce à une opération de sauvetage spectaculaire. 6 hélicoptères se sont relayés jusque dans la nuit pour évacuer les passagers. Hier après-midi, le bateau norvégien a subi une avarie de moteur au milieu d'une mer déchaînée. Pour l'heure, 25 personnes ont été hospitalisées.
Claudia Bertram. 24 heures après la fin du califat en Syrie, des djihadistes du groupe État islamique se sont rendus aujourd'hui aux forces arabo-kurdes. Ils se trouvaient dans des tunnels à Barouz. On ignore combien ils étaient. Selon un responsable local, il se peut que d'autres soient toujours cachés.
Gros plan à présent sur le festival gourmand Goût de France.
Durant 3 jours, des milliers de dîners à la française ont été organisés partout dans le monde. Ce festival a été également le de faire passer un message, celui de bien manger en faisant attention à l'environnement et en respectant les ressources de la planète. Et dans ce domaine, certains font figure de précurseurs, comme ce pêcheur qui fournit des maisons étoilées. Anne-Laure Jumet.
Tous les matins, à l'aube, Éric Jacquier relève ses filets dans les eaux du lac Léman. Pêcheur depuis 30 ans, il s'est fixé une règle, ne travailler qu'avec des chefs qui acceptent de monter dans son bateau.
Je leur dis, d'accord, si vous voulez du poisson, mais il va falloir venir avec moi à la pêche pour vivre une expérience et puis qu'on décide si on travaille ensemble ou pas. J'ai des poissons du Léman, c'est des poissons qui sont rares, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Et quelqu'un qui n'a pas envie de connaître le travail du producteur, je considère que je n'ai pas grand-chose à faire avec lui.
Parmi ses clients, le chef triplement étoilé Pierre Gagnère, dans les cuisines de son restaurant à l'hôtel Balzac à Paris, il se souvient encore avec émotion de cette rencontre.
Ça fait partie de ces journées mémorables où on rencontre des gens habités par ce qu'ils font. Il est le lac. La rareté des produits est là, clairement. Moi, mon père, qui était cuisinier à un restaurant, il recevait des turbos entre 8 et 12 kilos. Aujourd'hui, un gros turbo, c'est 4 kilos. Il y a encore des Éric Jacquier qui se battent. Il ne les vend pas, ces poissons. Il les confie à des gens qui ne vont pas en faire n'importe quoi.
Un poisson ensuite sublimé dans l'assiette, comme ce ferra, poché dans un beurre mousseux, à la réglisse et au jus d'ortie.
C'était le reportage d'Anne-Laure Jumet.
Et c'était le journal de Sophie Tussaud. Merci beaucoup, Sophie.
Europe 1, 19h11.
La météo, c'est maintenant, c'est avec vous Valérie Darmon. Quel temps pour la semaine qui vient ?
Eh bien demain, toujours un temps variable, hein. Beau temps dans le sud-est évidemment, petite pluie des Ardennes aux Alpes du Nord sous forme de neige au-dessus de 801 000 mètres des Vosges aux Alpes, ce temps instable qui va gagner les Alpes du Sud et la Corse en soirée avec un petit peu de neige au-dessus de 1200 mètres. Mardi, ce sera instable sur la Corse, les Alpes-Maritimes et le Var, très ensoleillé ailleurs et il neigera toujours à partir de 900 mètres sur les Alpes du Sud et la montagne Corse. Et puis surtout, le vent soufflera très fort jusqu'à 110 km/h sur cette région PACA et sur la Corse. Ailleurs, le temps sera très bien ensoleillé du matin jusqu'au soir. Donc c'est un début de semaine avec un temps plus beau, si je puis dire, sur la façade ouest de la France. À partir de mercredi, le beau temps qui s'installe absolument partout, les températures qui remontent parce que lundi et mardi, on va retrouver quelques petites gelées, notamment dans l'est, et puis des températures un peu frisquées sur la moitié nord.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports présenté par Christophe Lamar. Rebonsoir Christophe.
Rebonsoir Philippe.
On commence par du football. L'équipe de France qui termine sa préparation avant d'affronter l'Islande demain soir.
Oui, un adversaire à sa portée encore une fois, même si l'Islande se situe un petit cran au-dessus de la Moldavie.
Un petit, vous exagérez toujours un petit peu, mais c'est pour ça qu'on vous aime Philippe. On rappelle, c'est vrai, mais vous avez raison, que les Islandais avaient terminé quatrième, avaient fait un quart de finale à l'Euro organisé en France. Et surtout, les Bleus avaient été tenus en échec de partout. Il y a 5 mois, Mbappé avait arraché l'égalisation au bout du temps réglementaire. Et ça, le capitaine Hugo Lloris, il s'en souvient encore.
Je pense tout d'abord que le contexte est complètement différent. Sur un match amical, on avait peut-être montré un peu de suffisance. Et ce qui nous avait coûté un petit peu la première mi-temps et l'ouverture du score des Islandais. Et ensuite, on a couru un petit peu après le score, notamment avec le deuxième but sur coup de pied arrêté. Voilà, le contexte est complètement différent, c'est un match de compétition et on abordera ce match avec beaucoup de sérieux, d'application, comme ça a été le cas face à la Moldavie et puis avec l'ambition de gagner.
Hugo Lloris au micro de Cyril de la Morinerie, France-Islande demain soir au Stade de France, coup d'envoi à 20h45. Kingsley Coman ne sera pas là, l'attaquant est forfait en raison d'un dos douloureux, il ne sera pas remplacé dans le groupe.
Le rugby avec la suite de la 20e journée du Top 14.
La suite et la fin ce soir. En attendant, c'est le Racing 92 qui peut souffler un peu. Les Franciliens s'imposent 45-27 face à Bordeaux-Bègles. Ils s'accrochent à leur 6e place, synonyme de qualification pour la phase finale du championnat. Dernière rencontre de cette 20e journée ce soir. Donc, le leader Toulouse se déplace à La Rochelle.
Le biathlon, il y avait Martin Fourcade, mais il y avait encore plus fort que lui cette année.
Oui, Johannes Bø, pardon, remporte la Mass Start d'Oslo. Dernière course d'une saison qu'il a totalement dominée. Le Norvégien établit le record de succès sur une saison, 16 victoires. Il s'adjuge la Coupe du Monde, bien sûr, mais il réalise le grand chelem, à savoir remporter les 4 petits globes de cristal, un par spécialité, le sprint, la masse start, l'individuel et la poursuite. Et puis à Paris, coup de chapeau à Simon Delestre qui remporte pour la 2e année consécutive le Grand Prix 5 étoiles du saut Hermès. Ça se passait au Grand Palais et là, il faut quand même imaginer le décor de rêve.
Elle est l'invitée d'Europe 1 ce soir dès 20h. La ministre des Sports a beaucoup de choses à dire.
Et face aux auditeurs, vous connaissez cette formule mensuelle, Roxane Anna Maraciné à nous s'y est pliée pendant 1h30, interview menée par Lionel Rousseau. Et vous allez l'entendre, la ministre n'a pas botté en touche, notamment sur la question du hijab sportif. Decathlon envisageait d'en vendre, une commercialisation qui ne la choque pas.
Ce qui a offusqué, c'était que ce soit un magasin qui puisse mettre ça en avant, alors que ce n'était pas un magasin religieux et que c'était un magasin qui vendait des habits de sport. Il y a toujours... une réponse simple à un problème complexe, et c'est jamais la bonne. C'est pas de moi, je sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas c'est vraiment ça, parce que dans le sport, ce problème se pose au quotidien. Moi, mon objectif en tant que ministre des Sports, c'est d'aller chercher les gens. Et que en amenant les gens comme ils sont, là on est allé les chercher, avec un voile sur la tête ou sans voile sur la tête, et bien petit à petit, en leur permettant de vivre une mixité sociale, et bien c'est comme ça qu'on va pouvoir œuvrer pour les valeurs de la République.
La ministre des Sports, Roxana Maraciné, à nous face aux auditeurs d'Europe 1 ce soir à partir de 20h.
Et c'était le journal des sports de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe.
Merci Philippe.
Europe 1.
D'ici 40 ans, la France, donc nous, les contribuables, nous devrons venir en aide à plus d'1 million de personnes âgées dépendantes supplémentaires. Ma prochaine invitée, ancienne secrétaire d'État, dirige aujourd'hui la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie. Marianne Monchamp dépose demain son rapport au gouvernement et nous fait part de ses conclusions en avant-première et en exclu dans un instant.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
Vous écoutez votre grand journal du soir et maintenant à 19h17, Philippe Vandel, vous recevez une ancienne ministre.
Le vieillissement de la population avec l'arrivée prochaine aux grands âges de la génération du baby-boom est un enjeu majeur en ce qui interroge la place des personnes âgées dans notre société ainsi que les dispositifs de solidarité à mettre en place. Le nombre de personnes dépendantes pourra augmenter de 1,3 million en 2016 à 2,4 millions en 2060. Les dépenses consacrées à la dépendance pourraient passer de 1,4% du PIB en 2014 à 2,6% en 2060. Ça, je ferme les guillemets, ça, ce sont les mots du Premier ministre Édouard Philippe lorsqu'il a confié une mission sur l'autonomie et le grand âge à la CNSA. Bonsoir Marianne Monchamp.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes président de la CNSA, je détaille, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, après avoir été secrétaire d'État dans les gouvernements Raffarin puis Fillon. En un mot, quel est le rôle de la CNSA ?
Bien, la CNSA, c'est une caisse qui permet d'attribuer des financements aux politiques de l'autonomie, c'est-à-dire aux politiques qui concernent les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est 26,3 milliards d'euros en 2018, donc c'est un montant important, très important.
C'est une énorme somme. Alors vous avez été saisi, enfin vous et la CNSA, dans le cadre de la préparation de la réforme autonomie grand âge. Vous allez remettre votre rapport demain, lundi, à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, et également à la mission Libault, du nom du président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. En avant-première, vous avez accepté de faire connaître votre rapport aux auditeurs d'Europe 1. Que préconise-t-il, les grandes lignes ?
En fait, nos concitoyens veulent vieillir chez eux. Ils veulent être libres de leur choix. Et au fond, ce sur quoi nous insistons avec le conseil de la CNSA que je préside, c'est précisément sur cette dimension.
C'est-à-dire qu'ils le veulent, mais vous, vous le préconisez, alors qu'autrefois, on nous disait que c'était impossible, que ça coûtait trop cher, qu'il y avait trop d'obstacles techniques.
C'est ça, et pour qu'on puisse permettre aux personnes de vieillir chez elles, il faut s'organiser collectivement. Vous savez, un appartement 6e sans ascenseur desservi par les corbeaux, ça ne permet pas de vieillir bien et d'affronter les derniers mois de la vie.
Donc là, c'est pas possible.
Dans ce cas-là, ça n'est pas aujourd'hui possible. Il faut donc se poser la question de savoir comment, par une politique du logement, par une politique du soin, par une politique de l'accompagnement, mais aussi par l'organisation d'une présence aux côtés des personnes, on rend possible ce choix de finir sa vie chez soi, quel que soit ce chez soi.
Vous donnez un très bon exemple. La personne qui habite au 6e sans ascenseur, comment faire pour qu'elle se sente chez soi? On le fait déménager?
Alors, soit on aménage son logement, soit effectivement on lui propose un logement intermédiaire. Aujourd'hui, c'est possible. Une petite résidence très proche des commerces. Et si d'aventure, elle est très fortement en perte d'autonomie, si elle est très dépendante, comme on dit parfois par raccourci, alors on peut lui proposer un établissement, mais à la condition que cet établissement fonctionne comme un chez-soi et non pas comme une institution privative de liberté.
On parlera des EHPAD tout à l'heure. Vous écrivez « La logique dominante est celle du domicile choisi et non plus celle du métier ou du professionnel ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe actuellement?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une personne qui vit même chez elle, même dans son domicile, quand débarque l'équipe de soins infirmiers ou l'équipe de soins palliatifs ou les accompagnants, eh bien, au fond, ils réorganisent la vie dans le logement. Et la personne se sent dépossédée. Elle a l'impression qu'elle n'est plus chez elle. Elle voit des gens qui entrent, qui sortent. Et ça, les personnes nous le confient, elles ne le supportent pas. Il faut donc que, par l'évolution du professionnalisme des différents intervenants, ils apprennent à comprendre l'attente de la personne, à la comprendre de manière quasi personnalisée pour adapter leur pratique, tout simplement, aux usages que la personne choisit.
Alors, je reprends un de vos termes, le droit à vivre chez soi, quel que soit le lieu de vie. Est-ce que c'est réaliste? Dans les villes, ok, mais par exemple, je prends un petit exemple, parce que c'est mes grands-parents, qui habitent un petit village perdu dans les Alpes de Haute-Provence. Où trouver les professionnels qui vont s'occuper de vous?
Eh bien, peut-être dans ce cas-là, s'ils anticipent cette décision.
Enfin, ils sont plus de ce monde, mais je pense à eux comme ça.
Je les imagine encore parmi nous. Eh bien, peut-on imaginer que, en effet, ils acceptent d'aller dans une ville un tout petit peu plus grande, dans un appartement de transition où ils seront bien, ou peut-être dans un établissement, mais à la condition que cet appartement ou ce logement de transition répondent vraiment à cette logique qu'on appelle la logique domiciliaire, c'est-à-dire c'est eux qui décident, ce sont leurs choix et personne ne fait le contraire.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, avait lancé une consultation citoyenne en octobre, dont le résultat est que la principale requête est celle-ci, vivre chez soi jusqu'à sa mort plutôt que finir ses jours en maison de retraite. Le plus impressionnant, c'est le nombre de réponses record, 415 000 réponses en 2 mois, ça vous a surprise?
Ça a dépassé mes espérances, pour tout dire. Je le pressentais. Enfin, je crois qu'il suffit de se poser la question pour soi-même. Parfois, on cherche des places dans des établissements pour ses parents et pour soi, on voudrait rester chez soi. Donc, ça ne m'a pas étonnée sur l'esprit, mais en revanche, sur le volume, si, j'ai été surprise de cette réponse massive. On veut vieillir chez soi.
Ça veut dire que le modèle EHPAD va décliner peu à peu?
C'est pas qu'il va décliner, c'est qu'à notre sens, il doit se transformer. C'est-à-dire qu'il doit entrer dans cette logique domiciliaire. J'ai visité tout récemment un établissement où il me semble qu'on était déjà à ce stade-là. C'est-à-dire que la personne, dans son petit appartement ou dans sa chambre, elle était vraiment chez elle. Il n'y avait pas d'intrusion comme ça. Non seulement frapper pour entrer, c'est la moindre des choses, mais en plus, il y avait une attention de chaque instant à lui signaler, à lui confirmer qu'elle était chez elle.
Je suis étonné par ce que vous dites, parce que dans tous les reportages qu'on a vus, Dieu sait qu'on en a vu récemment sur les EHPAD, on avait plutôt l'impression que les personnes âgées étaient livrées elles-mêmes, qu'il n'y avait pas d'intrusion, qu'il y avait plutôt un immense silence du matin presque jusqu'au soir.
C'est toute la difficulté de la transformation de l'EHPAD qui doit devenir un lieu domiciliaire. Il faut insister sur une fonction qu'on a mise en évidence dans nos travaux avec le conseil, c'est ce qu'on a appelé la fonction présentielle. Vous savez, quand la nuit, la personne sonne, c'est rarement pour se faire prendre l'attention une nouvelle fois. C'est souvent parce qu'elle a besoin d'avoir une présence et un contact. Et si vous voulez, c'est dans l'organisation des métiers, c'est dans le management, dans l'organisation du travail, qu'il faut réintroduire cette dimension présentielle qui aujourd'hui est trop absente dans les EHPAD.
Mais là, on arrive au problème du financement, c'est qu'on manque de gens qui veulent travailler dans les EHPAD, notamment du fait que ce n'est pas très très bien payé, qu'il faut revaloriser ces métiers, mais si on les revalorise, ça va coûter encore plus cher.
Alors, il y a vraiment une désaffection pour ces métiers, on a des problèmes de recrutement terribles, parce que ce sont des métiers mal payés, vous le dites vous-même, mais aussi non valorisés. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'idée, j'ai 18 ans et je me demande ce que je vais faire demain, je vais aller travailler dans un EHPAD, ce n'est pas tout à fait spontané.
Ouais.
Et donc, pour ça, je pense qu'il faut revisiter l'apport de ces professionnels à l'intérêt général et à la situation des personnes. Quand on développe leur capacité à apporter une vraie présence, on revalorise de fait l'intérêt du métier. Ensuite, il y a la question du financement. Vous avez bien raison de la poser. Et c'est une part très importante de la réforme qui vient. La ministre a dit qu'il fallait être ambitieux. Et Agnès Buzyn a bien raison sur ce plan. Il ne faudra pas décevoir nos concitoyens.
Ah oui, parce que là aussi, on a encore un autre cercle vicieux. Les gens n'ont pas les moyens, pas tous pour leur famille. Les familles n'ont pas les moyens. Alors les gens se tournent vers l'État. Mais l'État, ce sont les impôts, donc les familles. Comment sortir de ce cercle vicieux?
Déjà, je crois qu'il faut bien comprendre ce qui fait que l'avancée en âge, ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut plus de dépenses d'assurance maladie, parce que c'est vrai qu'on est plus souvent malade au-delà de 85 ans qu'avant. Il faut plus de dépenses d'accompagnement parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour pouvoir évoluer, on a besoin d'aide. Mais il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas simplement dans ces deux domaines qu'il faut que nous trouvions des financements, il faut aussi en trouver dans la politique du logement. On l'évoquait tout à l'heure, ces logements de substitution, ils ne vont pas sortir de terre comme ça. Il faut une politique offensive dès maintenant pour leur permettre de voir le jour et être au rendez-vous en 2030.
Ah oui, j'ai bien compris. Mais s'il y a de plus en plus de dépenses, il faudrait de plus en plus de recettes. Il y a deux semaines, Stanislas Guérini, patron des députés de La République En Marche, a repris cette idée de créer une seconde journée de solidarité pour financer la dépendance, comme celle qui avait été créée en 2004 par Jean-Pierre Raffarin. Une journée travaillée mais non payée qui rapporte 2,4 milliards. Vous êtes favorable à une seconde journée ?
Je ne le vois pas comme ça pour une raison simple, c'est que nos concitoyens me semblent aujourd'hui absolument pas prêts, si vous voulez, à entrer dans une démarche de ce type-là. Une journée de solidarité de plus, c'est un prélèvement obligatoire supplémentaire. Et je pense qu'il faut que nous ayons d'abord l'ingéniosité de bien comprendre les financements pour éviter de surcharger la sécu et de renforcer les charges sociales, parce que ça, les Français n'en peuvent plus. Et donc, il faut que nous soyons très exigeants sur le modèle à construire. Il ne doit pas être cher, onéreux. Il doit être agile et il doit être précis dans la qualité des réponses. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez les bonnes réponses en soins et si vous avez les bons logements, ça coûte beaucoup moins cher en hôpital. Ça, c'est le premier point. Et en étant précis et agile, ça n'est pas nécessairement plus cher. Et il faut trouver d'autres sources de financement. On a besoin d'investisseurs aujourd'hui. Et là, on n'est plus dans la mécanique de l'impôt, on est dans une mécanique d'investissement collectif qui peut redonner à l'économie réelle de véritables capacités et de l'emploi.
Merci beaucoup, Marianne Monchamp. Je rappelle que vous êtes la présidente de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Merci d'avoir donné en avant-première vos conclusions aux auditeurs et auditrices d'Europe 1.
Merci.
Europe 1.
À suivre notre demi-heure de débat, l'acte 19 des Gilets jaunes s'est déroulé dans le calme. Une victoire en trompe-l'œil pour le gouvernement ou pas? Les partis de l'opposition sont-ils encore une force de proposition? Et puis on parlera également de la casquette du préfet. A tout de suite avec nos invités.
19h28, votre grand journal du soir se poursuit avec le grand débat d'actu jusqu'à 20h sur Europe 1. Et Philippe Vandel, on va rappeler qu'on peut commenter sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ce grand débat d'actu avec un petit nouveau à cette table dans cette assemblée. Bonsoir Olivier Pouriol.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, votre dernier ouvrage paru s'appelle Facile. C'est le titre, c'est pas la manière dont vous l'avez écrit. C'est chez Michel Lafond. Elodie Mielzarek, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sémiologue, La stratégie du caméléon au Cherche Midi. C'est votre dernier ouvrage qui est tout chaud, qui est sorti cette semaine.
Oui.
Hélène Risser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Public Sénat, vous avez une émission qui s'appelle Hashtag en français dans le texte. Non, en français dans le texte, c'est deux mois. L'acte 19 des Gilets jaunes, la question, est-ce que c'est une victoire trompeuse du gouvernement ou pas? La semaine dernière, le 18e samedi avait été marqué par des violences, le Fouquet's incendié, plus de 80 commerces vandalisés, voire pillés. Rien de tout cela hier, des manifestations dans le calme, même si à Nice, une dame, on l'a dit ici, a été hospitalisée. Situation donc beaucoup plus calme. À quoi ça tient selon vous, Hélène Risser?
Alors certains vous diront parce que le gouvernement a beaucoup mieux maîtrisé la situation. Moi je pense aussi parce que tout simplement, voilà, il y avait moins de casseurs qui s'étaient donné rendez-vous et donc la situation était davantage sous contrôle, comme ça a été le cas quand même de nombreux samedis. Hein, parce que les samedis de casse n'ont pas été non plus majoritaires.
On est tout de suite dans le sujet. Est-ce qu'il y a eu moins de casseurs? Parce que justement, des annonces du gouvernement ont été faites en disant attention, il y aura des drones, il y aura des produits marquants, il y aura l'opération Sentinelle, il y aura des militaires. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à l'effet dissuasif, Olivier Pouriol?
La dissuasion, elle était quand même visible, même dans les stations de métro où il y avait des fouilles, il y a eu un nombre de pré-arrestations qui font que c'est pas qu'il y avait moins de casseurs, hein, c'est que le dispositif policier
6000,
était en marche.
Puisque vous le dites, 6825 ouais. Contrôles préventifs.
Donc, c'était énorme, oui. Moi, j'en ai vu partout et boulevard Saint-Michel, ça avançait à la vitesse d'un banc de poissons, il y avait des camions qui avançaient. J'avais jamais vu ça, c'était très impressionnant. J'ai même vu des OAL, hein, ils ont fermé tout. Il y avait un skater de la police, enfin, ils ont déployé tout l'arsenal possible de prévention. Quoi.
Vous avez été contrôlé vous-même ou est-ce que vous alliez manifester ou est-ce que vous étiez
non,
en observateur
J'accompagnais mon fils à ses activités extrascolaires qui se passent au Forum des images et on voyait qu'il y avait l'hélicoptère reçu, etc. C'était très mobile et on voyait que c'était très très en mouvement.
Oui, Hélène Risser. Après, on ne peut pas dire précisément que ce soit ce dispositif qui a été particulièrement efficace, parce qu'on a eu des samedis, on se souvient, début janvier, des violences et déjà un discours de fermeté du gouvernement, et puis les samedis suivants, beaucoup plus calmes, et puis l'acte du 16 mars, à nouveau des violences. Je pense que on ne peut pas dire à ce stade que c'est la riposte du gouvernement qui a...
Non, c'est la riposte de la préfecture, c'est le changement de préfet qui a voulu marquer
son arrivée. Non, mais quand je dis la riposte du gouvernement, c'est avec le changement de préfet, je ne suis pas sûr, je pense aussi, je pense qu'on ne peut pas dire que ce soit ces dispositifs de filtrage qui étaient particulièrement efficaces à ce stade.
Alors justement, on y est, le préfet de police, vous l'avez dit, a été limogé en raison notamment de consignes inappropriées, c'est le terme, concernant l'usage des LBD. Selon vous, Michel Delpuech avait vraiment failli à sa mission ou c'était un fusible qui servait à protéger Christophe Castaner et Laurent Nunez, Élodie Milzarek?
Alors en tout cas, je note, et de manière assez amusante, vous parliez du forum des images, je note qu'effectivement, il y a eu moins de casseurs et il y a eu moins finalement d'images produites pour la télévision, mais ça n'a pas empêché que justement, il y ait des images qui cette fois soient produites davantage par le gouvernement, si j'ose dire, et qui remplissent finalement cet espace médiatique. C'est-à-dire que quand bien même il n'y a pas d'événement, d'un point de vue des gilets jaunes, d'un point de vue des casseurs, d'un point de vue de ce qui peut se passer sur les Champs-Élysées, eh bien, il y a quand même de l'événementiel qui est créé autour de ces passations symboliques.
À quelles images? Ah oui, vous voulez dire avant que le gouvernement a fait de l'image.
Oui, tout à fait, exactement. Pour dire... Et on peut se demander justement si ce type d'image-là, est-ce qu'au final, elles ne sont pas plus contre-productives? Est-ce que réellement, elles arrivent à immerger et à faire sens justement par rapport à toutes ces semaines qui s'accumulent? Qu'est-ce qui ressort véritablement comme type de message et comme type de position?
Alors Élodie, vous êtes sémiologue. La sémiologie, je le dis, c'est la science des signes. Vous lisez les images, derrière les images, et il y a une image vraiment dont on a beaucoup parlé, les gens sourient avant même que j'ai dit la phrase, c'est la casquette du préfet.
Oui.
Déjà, il y a deux choses. Déjà, on voit arriver un préfet tout en blanc, dans les grands uniformes d'apparat de la République. Oui. Et ça, c'est un signe. Normalement, les types sont en costard-cravate.
À mon avis, il y a deux points très fondamentaux à explorer là-dessus. Le premier, c'est qu'effectivement, on parle des Champs-Élysées, scène de lutte, scène des casseurs, etc. On voit bien comment la lutte aujourd'hui, elle n'est plus que dans des lieux géographiques, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, quelque part, le fait de tourner en dérision et en ridicule ce changement de pouvoir, cette passation, c'est aussi une manière, quelque part, d'être dans la lutte politique et d'être dans ce mot, en tous les cas, du champ politique et du faire politique et de faire sens et de faire...
Attendez, j'ai pas compris où était la dérision.
En tout cas, il a été tourné en dérision.
D'abord, il y a deux images. Voilà, il y a une première image. On voit le préfet. Je voulais que vous commentiez ça, Olivier Pourriol. On voit le préfet qui est en costume d'apparat, en blanc. On dirait une publicité pour Tang et les soupers de l'ambassadeur. Déjà, non mais franchement, non, c'est un signe.
Il a été moqué
sur
la taille de sa casquette. Et c'est comme si, la dérision consistait à dire voilà, l'uniforme est trop grand. Ce n'est qu'un homme, l'uniforme est trop grand et c'est le roi est nu en fait. Bon après c'est vrai que pour une fois qu'on a un crâne d'œuf qui n'a pas une grosse tête, on peut en profiter.
Mais, ça n'engage que vous. Hein.
Non mais il y a aussi une dérision sur son nom, moi j'irai pas par là, mais il y a eu tout un...
Il s'appelle Monsieur l'Allemand.
Une dérision un peu répressive, enfin une dérision sur le répressif. Mais moi ce qui m'a plutôt choqué, c'est pas la casquette, c'est les bérets rouges. C'est-à-dire que hier dans la rue, on les croise encore aujourd'hui, le dispositif Sentinelle. Et ça je trouve que symboliquement, il s'est passé quelque chose de très fort, de très grave, de très dangereux, même si ça a été évidemment détourné quand on dit que oui, en fait, ils sont pas équipés pour faire de l'ordre public, ce qui est vrai, parce qu'ils ont soit la matraque, soit le FAMAS. Et là, soudain, les militaires se retrouvent pris entre deux feux, si je puis dire, avec Mélenchon d'un côté qui appelle l'armée quasiment à fraterniser.
À ne pas tirer.
Voilà, c'est ça.
Ce qui sous-entend donc on leur avait demandé de tirer.
Évidemment, ce qui est absurde. Mais quand moi, je me promène avec mes enfants dans Paris, avec d'un côté les gilets jaunes, de l'autre côté les bérets rouges et la casquette, on ne sait pas où aller, il y a quand même une ambiance très, très, je trouve, ridicule, en fait. Voilà, complètement disproportionné. Et moi, je trouve ça très grave d'être dans un espace démocratique avec des enfants. J'essaye de leur expliquer que font les militaires dans la rue, parce que moi, ils me le demandent. Ils disent, papa, est-ce qu'ils peuvent tirer? Je dis, en fait, non, ils ne sont pas là pour ça. Ils disent, mais alors, ils servent à quoi? Si c'est pour libérer les forces de l'ordre, on va dire, qui doivent faire de l'ordre public pour faire leur métier, de mettre des militaires qui sont quand même dans la rue. Moi, je trouve que le message est très, 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 très mitigé, très, très bizarre, très, très angoissant.
Je dis ça sans aucune ironie. Pose des bonnes questions, vos enfants, on va les prendre comme débatteurs. cœur. Élodie Melzarek veut dire quelque chose, ensuite Hélène Risser. Élodie.
Parce que vous dites ridicule, et alors moi j'ai presque aussi envie de dire inquiétant, alors je le mets entre guillemets, puisque chacun y mettra le mot qui lui convient le mieux, mais il est assez juste, notamment quand on se rappelle la pensée de Lacan. Lacan, il disait que finalement, le symptôme d'un individu qui est névrosé et qui est dans une mauvaise santé mentale, c'est notamment quand il y a une inflation du symbolique, quand il y a de l'hyper-symbolique en permanence. Et qu'est-ce qu'on voit ces derniers temps? Mais ça n'est que ça. C'est Christophe Castaner qui est dans son QG, qui nous explique qu'il a bien entendu le commandement. C'est effectivement les histoires de casquettes, de costumes blancs, les photographies qui sont prises. C'est effectivement le symbole des militaires qui sont dans la rue. Et tout ça n'est pas fait pour rassurer. Et c'est là où est le paradoxe, finalement. C'est que les images qui sont produites, vraisemblablement, elles le sont dans une volonté de dire tout est sous contrôle. Mais au final, c'est le symptôme même du phénomène inverse.
Mais j'y pense, puisque vous en parlez, est-ce que cette image ne servait pas à répondre à une autre image? C'est Christophe Castaner en boîte de nuit, Hélène Risser.
J'allais dire, alors, exactement, parce que...
je vous ai volé votre lance.
Non, mais c'est pas grave. c'est bien de m'aider. Parce que sur le bilan des militaires et de l'image des militaires, on en a beaucoup débattu avant. Pour l'instant, finalement, comme ça s'est plutôt bien passé, on a
Ce fut
la polémique de la semaine. Non, mais après, effectivement, je pense qu'il y avait un vrai enjeu de communication ce week-end pour le gouvernement. Sachant que Christophe Castaner, d'ailleurs, il y avait un article du Point qui le caricaturait un peu. Hein, il est dans la communication rituelle tous les samedis.
Non, ne dites pas, il le caricaturait un peu. Je vais juste dire un mot, après je vous redonne la parole. C'était la une du Point, le titre c'était les stagiaires et il y avait la photo de Christophe Castaner. C'est
ce
pas
que
un peu.
Caricaturer un peu. Bon, voilà. Tout en euphémisme. Non, mais, et qu'effectivement, on a tous les samedis cette communication de Christophe Castaner avec son point presse, les tweets, le serrage de louche, etc. Là, il y a un enjeu, et il y a l'enjeu de faire oublier ce qui s'est passé le week-end dernier. La boîte de nuit
plus
pour Christophe Castaner. Plus le week-end, quand même, les photos d'Emmanuel Macron à la Mongie.
Ah, vous avez raison, on avait oublié le ski.
Et à mon avis, je pense que c'est pire que la boîte de nuit, hein, en termes d'image, parce que pour les Français, le chef, c'est quand même Emmanuel Macron.
On finira là-dessus. Après la chute, pas de chute. C'est une règle que m'a appris Philippe Gildas. Je la respecte, je l'honore et je vous dis à tout de suite.
18h-20h, votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1.
19h39, on retrouve Philippe Vandel et ses invités pour la suite de notre grand débat d'actu sur Europe 1. Et Philippe, vous vous êtes entouré ce soir d'une journaliste, Hélène Risser, dont l'émission Hashtag est diffusée sur la chaîne publique Sénat, mais aussi d'une sémiologue, Élodie Mielzarek, et d'un écrivain, Olivier Pourriol.
Justement, Olivier Pourriol, dernier ouvrage paru, le vôtre, facile, je vais résumer l'argument. Il ne faut pas confondre effort et travail. Sous ce prisme, comment vous jugez le travail de l'exécutif ?
Déjà, on peut juger la valeur qu'il donne au sens de l'effort. On entend des discours, on voit bien que l'idée, c'est toujours la méritocratie.
C'est pas bien ?
C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est ridicule. C'est terminé. On sait bien qu'il ne faut pas confondre l'effort et le travail. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on produit quelque chose d'intéressant. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, c'est vraiment ça. On voit bien qu'il y a plein de gens qui aimeraient avoir du travail, qui travaillent, qui parfois travaillent trop. La plupart du temps, leur travail n'est pas reconnu. Donc le problème, ce n'est pas de lier le travail et le sens d'une vie. C'est que même si on travaille beaucoup, aujourd'hui, si on discute avec des psychiatres, ils disent qu'il y a plus de la moitié de leurs clients, j'allais dire, de leurs patients qui souffrent non pas de leur névrose personnelle, mais du monde, du travail dans lequel ils vivent. Le monde du travail rend les gens malades aujourd'hui. C'est ça la vérité. Donc le travail de l'exécutif, vous avez d'un côté des gens qui sont bien habillés, qui sont un peu des champions d'une société, ils parlent anglais, ils ont tous internet.
Les premiers de bordée.
Et il y a un décalage énorme. Moi je vous dis ça, j'ai fait des grandes écoles, des classes préparatoires et je vois bien qu'il y a un décalage fou entre ce qu'on vous met dans le cerveau, dans ces endroits et la réalité.
Élodie Melzarek.
On parle là aussi de management et il me semble qu'on a quand même des indices, des symptômes très forts qui montrent que d'un point de vue de l'exécutif, c'est quand même très compliqué. Il y a un turnover qui est assez incroyable. Il y avait eu un article du Point il y a plusieurs mois qui disait qu'en termes de secrétaire qui était épuisé et qui rendait l'âme, si j'ose dire, de manière imagée, mais on peut se poser la question jusqu'où ça va, des remplacements très fréquents, des ministres qui partent. Hein, on pense à la démission de Nicolas Hulot, bien sûr, Gérard Collomb et d'autres qui montrent qu'il y a quand même un essoufflement. Et alors, ce qui excusez-moi, je me permets juste de faire le lien avec le préfet de police qu'on évoquait à l'instant, monsieur Lallemand. Il y a quand même eu un article de Libération qui est sorti, qui est assez détaillé et qui montre que son mode de management à lui, c'est l'autoritarisme. Et que finalement, il est quelque part le reflet aussi de ce que peut incarner Emmanuel Macron, puisque quand on écoute un petit peu ses proches, eh bien, il y a beaucoup cette phrase qui revient de finalement, c'est pas un gars si sympathique, c'est un gars qui est assez isolé. Et là, on voit bien finalement comment ce sont des types de personnalités qui sont des types de personnalités assez difficiles, assez complexes. Et quand on prend l'exemple de l'entreprise, eh bien, on voit bien le coût des incivilités. Le coût des incivilités, c'est incroyable. C'est-à-dire que déjà, il y a 98% des salariés qui s'estiment victimes d'incivilités au travail et elles ont une manière finalement quelque part de compenser. Eh bien, c'est de, pour un tiers de ces 98%, c'est d'être de saboter quelque part leur travail pour emmerder l'emmerdeur, si vous me passez l'expression. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce type de management par la terreur et par l'autoritarisme, ça ne fonctionne pas
du tout. Et ça peut s'étendre au gilet jaune ou est-ce que je fais de la psychologie de bas étage? Est-ce qu'il sabote la ville en allant tout casser sur les Champs-Élysées?
En tout cas, le lien moi, que je fais avec les gilets jaunes, c'est que visiblement, s'il y a encore du sabotage et s'il y a encore du cassage, c'est qu'il y a des réponses qui ne sont pas entendues et que vous pouvez être dans du contenu. Mais il faut avoir une sorte d'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que le contenu, c'est une chose, mais la forme relationnelle et la forme que vous mettez à ce contenu-là, c'en est une autre. Et visiblement, il n'y a pas eu de réponse encore à ce niveau-là.
Hélène Risser.
Oui, sur l'effort et le travail. Moi, je ne suis pas philosophe, mais enfin, j'ai remarqué quand Emmanuel Macron est parti au ski deux jours, hein, qu'il a un peu relâché les efforts. Bon, ça lui est retombé un petit peu, carrément sur le coin de la figure. Et donc, il est rentré à 23h le samedi 16 pour se montrer au travail. Et donc, je pense qu'il y a un vrai
enjeu. Non, c'est pas un travail, lui.
Olivier,
il a beau être salarié, il est dans une fonction. Et en fait, quand on est en haut de la pyramide, on a plus de responsabilités que quand on est en bas. Mais n'importe quel procureur vous le dira. Il faut individualiser l'appréciation. Et quand quelqu'un commet une erreur et qu'il est en haut, il doit le payer plus cher que celui qui est en bas. Ça, c'est une règle
mais
basique.
Mais là, vous parlez du fusible. Vous parlez de la question
du fusible.
Du préfet.
Je parle de la nécessaire exemplarité qui doit être proportionnelle à la fonction qu'on occupe. Plus on est en haut, moins on a le droit à l'erreur, c'est comme ça. Et si on fait une erreur, on doit la payer plus cher.
Mais l'erreur, c'était quoi? C'était de partir au ski?
Ben, probablement. Après, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons sur les loisirs, mais sur le papier, là, sur l'exécutif, il y a un très bon papier cette semaine dans le magazine Society, où vous avez des témoignages.
On a fait toute la revue de presse.
Certains, certains anonymes, j'étais dans le taxi, je n'ai pas écouté, il y a certains anonymes et certains à visage découvert racontent qu'ils sont le nez dans le guidon et qu'ils ont du mal à apercevoir ce qui se passe à l'extérieur.
Hélène Trécourt, puis Élodie.
Mais sur l'autorité, je pense que quand on est pris en défaut d'autorité et de verticalité, ce qui a été le cas, puisque le grand débat, ça a été un bel exercice d'horizontalité. On va voir ce que ça va donner. Mais prise à défaut, le gouvernement en matière d'autorité le week-end dernier, eh bien, fait de l'autoritarisme. Et je pense que c'est ça un petit peu le piège. Voilà. Et donc, effectivement, on change de préfet, on prend quelqu'un de très autoritaire, on fait une démonstration d'autorité. C'est, on va dire, c'est de la communication. C'est rattrapé par les mots ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les actes.
Sauf qu'en même temps, il y a eu moins de violence quand même. Donc, c'est pas non plus que de la com.
Oui, mais attendez, Philippe, parce qu'il faut voir les traces que peuvent laisser les dérapages et les violences du 16 mars. Je pense que ça peut laisser des traces.
Pas faux. Élodie Melziarek.
Vous parliez du sens de l'effort. Je trouve qu'il y a un élément de langage qui est assez merveilleux et qu'on retrouve assez fréquemment, qui est le sommeil, ça ne sert à rien. On l'avait vu pendant la campagne présidentielle avec Emmanuel Macron.
Alors ça, vous faites référence, on continue notre revue de presse, c'est le JDD cette fois. Et c'est l'interview de Marlène Schiappa. Elle n'a pas tout à fait dit ça. C'est le titre qui est un petit peu survendeur. J'aimerais bien que quelqu'un m'apporte le JDD. Je ne l'avais pas pris avec moi, mais racontez ce que vous voulez dire de ça.
Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement... Merci Hélène.
Je crois que j'ai plus la
Hélène l'avait, continuez.
Exactement, mais en tous les cas, ce qui est très pertinent... c'est de finalement de dire que le travail, forcément, c'est un travail qui est coûtant, c'est un travail qui se fait dans l'effort et c'est quelque chose qui doit nous coûter et même des heures de sommeil. Et là, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que, comment on peut imaginer être productif quand on dort pas assez?
Oui, alors il y a eu une polémique, justement, à l'instant.
Mais on voit bien comment c'est un élément de langage gouvernemental.
Le titre, c'est « Dormir, c'est du temps perdu », ce qui a causé un vif émoi sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans l'interview, elle dit qu'elle travaille tout le temps. Elle dit « J'admire les gens qui sont capables de s'asseoir 3 heures en forêt. Moi, j'en suis incapable. Rien que dormir m'apparaît conditionnel comme du temps perdu. Elle dit pas dormir c'est du temps perdu.
Oui, mais c'est une reformulation.
J'ai compris, mais on est passé du conditionnel à l'indicatif.
Mais c'est une reformulation de cet élément de langage des 4 heures de sommeil nécessaires à Emmanuel Macron. Et on voit bien comment cette séquence-là du JDD est une réponse justement à cet épisode du ski et de finalement pouvoir être dans le loisir et prendre du temps pour soi. Et comment ça a été mal vécu et comment cette réponse de Marlène Schiappa permet justement de remettre quelque part les pendules à l'heure.
Mais c'est plutôt un aveu d'impuissance. C'est comme les débats à 1 contre 60 plutôt qu'à 1 avec 60 qui durent 7, 8 heures. C'est absurde. N'importe qui a enseigné sait qu'au-delà d'aujourd'hui, au-delà de 1 heure et demie, c'est difficile de tenir l'attention d'un être humain normal. Donc ce côté, on va vous épuiser en étant disponible de manière horizontale, c'est faux. Ça reste une verticalité imposée. C'est on est là et tant que tout le monde ne sera pas faute de combattants abattu, on va continuer. C'est pas du débat, ça.
On n'est pas 60, on va pas dormir, on marque une pause et on se retrouve tous les 5.
19h47, suite et fin de notre grand débat d'actu sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel et vos invités, Olivier Pouriol, écrivain, Hélène Risser, journaliste à Public Sénat et Élodie Mielzarek, sémiologue.
Alors Hélène Risser, vous l'avez dit, le grand débat c'est pas terminé. La semaine prochaine, le président de la République va encore se déplacer dans les Pays de Loire, en Corse, en Bretagne. Il va recevoir des élus à l'Élysée. Et selon les sondages, les Français disent qu'avec le grand débat, le président a montré des capacités d'écoute. Et justement, Élodie Mielzarek, dans votre livre, La stratégie du caméléon, vous dites que pour réussir, il y a une condition essentielle, mais on l'avait oublié, c'était écouter.
Oui, notamment en négociation, pour tout ce qui est...
Moi, je croyais que pour réussir, il fallait parler.
Non, donc... les bons commerciaux, justement, c'est vrai.
C'est d'abord
les bons commerciaux,
expliquer.
Oui, les bons commerciaux sont souvent ceux qui écoutent. Pourquoi ? Parce que c'est une manière, justement, de prendre connaissance de la cartographie mentale de l'autre, de ses besoins, et de pouvoir y répondre. Donc, si vous n'écoutez pas...
Est-ce que ça s'applique à la politique ?
Eh bien sûr, mais le paradoxe, c'est justement ça. C'est que tout à l'heure, on parlait d'autoritarisme, de verticalité. On voit bien comment le grand débat est une méthodologie qui se veut davantage horizontale. Mais si vous-même, quelque part, vous n'êtes pas dans cette intelligence émotionnelle et relationnelle, si vous n'arrivez pas à l'incarner cette écoute-là, il y a un moment donné, le grand débat n'est qu'un décorum et n'est qu'une méthodologie, mais qui ne peut pas aboutir à quelque chose. Et le grand paradoxe dans lequel se trouve enfermé Emmanuel Macron, c'est que lors de sa campagne présidentielle, il était beaucoup dans cette démarche, effectivement, et même dans ses mots, le rassemblement, c'était un des termes qui revenait le plus souvent. Donc il était dans quelque chose qui était plutôt de l'ordre de l'horizontalité, voire même de l'empathie, et ça se voyait au niveau corporel. Et on a vu comment la prise de pouvoir, et avec ce symbole très fort de la pyramide du Louvre, marquait la fin, justement, de cet échange, de cette collaboration. Alors, il essaye de la remettre, cette collaboration, avec le grand débat, mais que va devenir ce matériau ? Qu'est-ce qui va en être
Je
crois qu'il y a une question de posture.
Moi, j'interroge la posture. Les politiques qui sont élus sont souvent capables, tous les présidents en campagne, d'avoir une grande capacité d'empathie, d'écoute. Et Emmanuel Macron, comme les autres. Et effectivement, quand il a été élu, il a été dans cette posture très verticale, mais il l'a montré à plusieurs reprises lors de sa marche mémorielle.
L'itinérance mémorielle,
merci, à chaque fois, je me trompe, du mois de d'octobre. Et puis là, pendant le grand débat, d'ailleurs, ça s'est bien vu dans les sondages, et je pense que tout le monde l'a perçu comme, certes, un espèce de marathonien débattant pendant des heures et épuisant tout le monde. Alors peut-être
qu'il prend la parole tout seul.
Par moment, peut-être, avec les intellectuels, effectivement, mais on l'a vu à plusieurs reprises, écouter les situations des gens, rebondir sur des cas précis, faire preuve quand même d'une capacité d'écoute, et je pense que c'est ça le succès du grand débat. Et alors le problème, effectivement, c'est comment en sortir, et on voit bien que là, il a été en difficulté après les événements du 16 mars, et qu'est-ce qu'il fait ? Il remet une petite couche de débat. On retourne, refaire quelques débats supplémentaires, parce qu'effectivement, ça marche très bien. Le problème, c'est effectivement à quoi ça mène derrière.
Olivier Pouriol va trancher. Est-ce que désormais le président écoute ou parle tout seul ?
Monologue ou dialogue ?
Selon vous, ouais.
Non, j'essaye de vous écouter.
Montrez-le.
On voit qu'il est intelligent, Emmanuel Macron. Il est presque trop intelligent. On voit qu'il est empathique, donc il a aussi l'intelligence de prendre la place de l'autre. Mais il a l'intelligence d'un champion. Vous voyez,
expliquez.
Regardez les ministres des sports qui sont des anciens sportifs. Quand ils arrivent dans le monde politique, un sportif croit que le monde autour de lui, exactement le même qu'en compétition. C'est un compétiteur exceptionnel, Emmanuel Macron. Et le problème, c'est que le monde ne se résout pas à une compétition où, pour la plupart des gens, c'est une compétition qui est perdue. On est dans un monde, quand même, où la plupart du sentiment qu'on a de
c'est
la vie...
C'est terrible, ce que vous dites.
Non, c'est la réalité. Pourquoi les Gilets jaunes ne sont pas contents?
Mais les Gilets jaunes, ce n'est pas l'ensemble des Français. Il y a plein de gens qui ont quand même l'impression de gravir les échelons de leur
mon
profession.
Mon père, il n'est jamais allé sur un rond-point.
Attendez, Olivier Pouriol.
Je vois bien que quand il l'entend, en tout cas au début du mouvement, quand il entend les Gilets jaunes, il se sentait concerné parce que la retraite, avec moins d'argent, ben, il y a plein de gens qui connaissent ça. Les problèmes d'argent, enfin, qui sont impartageables. Vous voyez, par exemple, la première injustice fiscale, c'est pas le montant des impôts, c'est juste arriver à lire sa feuille d'impôts, arriver à comprendre, par exemple, ce qui va se passer là, l'année blanche, etc. Je veux dire, on a beau faire des bacs plus 5, on comprend pas ce qui va se passer.
Je vous interromps d'une seconde, les ministres ici à ce micro étaient parfois incapables de l'expliquer.
Mais bien sûr, évidemment. Donc la première injustice, c'est celle-là, c'est d'avoir l'impression, alors que le guichet, si vous voulez, c'est le but de l'égalité républicaine, c'est qu'on soit traité par un guichet. En même temps, quand on est traité par un guichet, on a l'impression que c'est inhumain. Donc le problème qu'on a avec Emmanuel Macron, on a l'impression que quand il est quelque part, oui, autour de lui, c'est comme tous les présidents qui guérissent les écrouelles par le simple contact, on a l'impression qu'on va être sauvé de sa vie. Mais sa logique à lui... Non, mais sa logique à lui, ce qu'il dégage, et d'ailleurs ce qui était fort en face de Marine Le Pen dans son débat entre les deux tours, c'est que vous aviez d'un côté un champion de tennis, un génie du duel, de l'affrontement, de la compétition. Mais la logique de la compétition, ça ne permet pas de comprendre l'intégralité de la vie. Et ouais, c'est ça le problème, il y a un décalage.
Et puis aussi, dans ce débat, parce que vous y faites allusion, Marine Le Pen s'est aussi un peu disqualifiée toute seule en faisant la chauve-souris. Hélène Rissert, vous vouliez dire et répondre à Olivier Pouriol. Et ensuite...
Non, mais sur le champion, je pense que c'est une vision. Enfin, les Français, je ne pense pas que les Français se vivent tous comme des perdants. Après, ils attendent beaucoup de l'État. On a un rapport, vous dites, guérir les écrouelles, effectivement, par rapport à d'autres pays, d'autres systèmes. On attend énormément de l'État. Oui. On est dans ce rapport parfois un peu passif et infantile vis-à-vis du pouvoir, en lui demandant tout en voulant qu'il démissionne. Enfin bon. Mais après, je ne pense. Est-ce que les Français se vivent comme des perdants de la vie en général et sont...
J'ai pas dit ça.
Je ne suis pas sûre. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, je pensais
c'est
à
la
certains...
comparaison le problème avec quand on
à
compare les classes moyennes avec les gens qui payent moins d'impôts.
Mais ils se vivent pas forcément comme des. Le rapport aux impôts ne définit pas tout le rapport de l'individu à son travail et au monde.
Moi, je vais résumer sa pensée. Ils ont parfois l'impression qu'ils sont les cocus de l'affaire et que c'est eux qui sont non pas les bénéficiaires mais déficitaires.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui on a un problème par rapport à la fiscalité et d'adhésion à la fiscalité dans un système où tout le monde a l'impression qu'il se fait avoir en France. Ça, c'est à mon avis, c'est ça le truc le mieux partagé.
Élodie Mielsarek.
Oui, on parlait d'intelligence relationnelle. Il me semble que une des manifestations qui montre que justement vous l'avez cette intelligence relationnelle, c'est que vous avez une intelligence de réseau. Autrement dit, vous savez vous entourer des bonnes personnes. Or, le point un petit peu inquiétant, justement, concernant Emmanuel Macron, puisque c'était le démarrage de notre débat, on peut se poser des questions. C'est-à-dire que sur les bons éléments, entre guillemets, et ceux qui étaient tout à fait fédérateurs, et je pense à Nicolas Hulot, mais il y en a eu d'autres, eh bien, on voit comment il a du mal à les retenir. Plus l'affaire Benalla, de ceux qui montrent qu'on peut s'interroger aussi sur la façon dont il s'entoure et comment il choisit ses plus proches. Voilà, donc je me permettais juste d'ouvrir cette question-là.
Il a réussi à faire rentrer Nicolas Hulot au gouvernement, ce que personne n'avait réussi à faire avant lui. Après, Nicolas Hulot n'est pas forcément...
Il n'y est plus.
Oui,
mais
c'était une des personnalités les plus fédératrices.
Il n'est plus fédératrice, mais qui n'est pas forcément quelqu'un qui, d'ailleurs, il l'a expliqué lui-même, voilà, qui est capable, enfin, capable n'est pas du tout péjoratif là dans ma bouche, mais enfin, qui a envie de se glisser dans la peau du politique. Au bout d'un moment, il a craqué.
Mais là où Élodie Mielsarek met le doigt sur quelque chose d'intéressant, c'est que dans beaucoup de manifestations de Gilets jaunes, il y avait plein de pancartes qui citaient le nom de Benalla, en disant pourquoi lui est soutenu, sous-entendu, et pas nous. Donc il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce que vous lisez, vous, dans cette histoire du soutien à Benalla, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène et non pas une affaire d'État?
Non, on parlait de verticalité. Quand il est arrivé, Emmanuel Macron, en mettant la verticalité, il a mis de la royauté aussi, puisqu'il a réinvesti le Louvre. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la verticalité, ben, c'est réciproque, ça va dans les deux sens. Si on traite les gens de manière royale, en ramenant chacun à sa position de peuple, ben le peuple va peut-être reprendre des symboles qui historiquement sont avérés. Et c'est ça qui se passe, c'est que la force de Macron, il s'est fait élire sur du symbolique, et le symbolique est en train de se retourner contre lui. Et le problème, c'est que dans les débats qu'on entend, le symbolique a un peu disparu, et on a l'impression qu'il prend les choses sur le plan purement technique.
Et procédural.
Et ça va être dur de s'en sortir.
Et ça sera le mot de la fin. Et puisque vous parliez de la manière dont les anciens sportifs font de la politique, je vous signale que pendant une heure et demie maintenant sur Europe, on va entendre une ancienne championne de natation, Roxana Maracineanu, qui est désormais ministre des Sports. Merci beaucoup Olivier Pouriol d'avoir été avec nous. Merci Elodie Mielsarek. Merci Hélène Rissert d'avoir été dans ce débat.
Europe 1.
Et maintenant, on va parler sport, non ?
Absolument.
Lionel Rousseau.
Bonsoir, Philippe.
Le programme, je l'ai dit, mais vous pouvez le préciser.
Avec un concept magnifique, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 qui ont été retenus et qui vont pouvoir interroger notre personnalité, notre invité ce soir. En effet, Roxana Maracineanu, qui est la ministre des Sports et qui va répondre à toutes les questions, que ce soit sur le sport de haut niveau, le football professionnel, l'affaire Rabiot, encore plein de choses. Et puis, après cet entretien qui va durer une heure et demie, on sera dans nos grands débats foot, puisque vous savez que l'équipe de France de football joue demain contre l'Islande.
Ah bon, je ne savais pas. Bah, il y aura encore de l'horizontalité. Merci, on vous écoute. Nous, on se retrouve samedi prochain à 18h. Salut Marlène.
Salut Philippe.
Bonne semaine à tous, bonne soirée sur Europe 1.